Europe 1, 18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous, votre grand journal du soir. C'est parti pour 2 heures d'infos, d'analyse, de débat, toute l'actualité ensemble jusqu'à 20h. Alors à la une ce soir, l'inquiétude, elle est bel et bien réelle, celle des parents d'élèves dont les enfants étaient en vacances scolaires en Italie. L'Italie est touchée par le coronavirus, notamment la Toscane et la Sicile. Europe 1 est sur place ce soir. Ce sera dans le journal de Sébastien Krebs qui nous rejoint dans un petit instant dans ce studio. L'épidémie est donc aux portes de la France, vous l'avez compris. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, demande un plan d'urgence. Il sera mon invité dans 20 minutes en direct. Le risque d'une extension sur le reste de la planète s'accroît. On en débattra avec nos grandes voix dès 18h30 et bien sûr avec vous au 39-21, l'économie mondiale. Bien entendu, la Chine a contribué à plus de 40% à la croissance du PIB mondial sur la période 2010-2020. Le sujet est donc très largement d'importance aussi sur le plan économique. Et 19h30, une découverte. Un comédien dont on parle de plus en plus, il incarne un dépressif rigolo, un adolescent comme on dit dans Mes Jours de Gloire, en salle demain. C'est Vincent Lincoste qui nous accompagnera jusqu'à 20h. Mathieu Charrier aussi pour Mardi Cinéma. C'est parti, nous écoutons Le Monde Changer ensemble jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Pendant 14 jours après le retour, votre enfant ne peut pas être accueilli à l'école. Ça me fait peur, oui, ça c'est sûr.
Des enfants écartés de l'école pour 2 semaines, pure mesure de précaution pour ceux qui reviennent d'Italie du Nord.
L'Italie où de nouvelles régions sont touchées par le coronavirus et où un hôpital de la région de Milan est pointé pour des dysfonctionnements.
Il y a une gestion au niveau d'une structure hospitalière pas complètement appropriée.
Nous sommes ce soir sur place en Italie, l'inquiétude bien au-delà de la Chine. Le monde n'est pas prêt à faire face, dit ce soir un représentant de l'OMS.
Nous passerons le coup de fil du 18h en région lyonnaise. Faut-il vraiment laisser venir des supporters italiens demain à Lyon pour le match contre la Juventus de Turin?
Dans ce journal également, la porte est bien ouverte, reconnaît Édouard Philippe. Porte ouverte à l'utilisation de l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites.
Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution.
La Cour des comptes qui n'est pas tendre avec le gouvernement sur les déficits et les aides au logement. Et puis écouter la musique changer, ou plutôt la façon dont on l'écoute. L'industrie du disque revit grâce aux plateformes légales.
Et oui, Neil.
La Bourse de Paris décroche à nouveau ce soir de 1,94% à 5680 points.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La tendance avec vous pour la météo.
Ouh là là, demain c'est de plus en plus hivernal. Le programme pour quasiment toute la France, des averses, du grésil, des coups de tonnerre et des chutes de neige en pleine demain. Tout ça accompagné de vent fort.
L'hiver
commence. C'est le programme,
quoi.
Ça y est, demain c'est l'hiver et les températures sont en chute libre. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Des enfants gardés loin de l'école, par précaution. On vous parlait dès hier de ces consignes données par le ministère de la Santé pour tous ceux qui reviennent des régions du nord de l'Italie. 14 jours sans aller en classe pour ne pas prendre le moindre risque. Mesure qui commence à avoir des conséquences. Bonsoir Théo Manval.
Bonsoir.
Notamment dans une école du 9e arrondissement où 2 enfants doivent rester à la maison.
Oui, 2 jeunes filles scolarisées en CM2 et qui revenaient de vacances dans le nord de l'Italie avec leurs parents. Elles ont d'abord repris l'école comme les autres hier. Mais dans la soirée, la directrice a appelé les parents pour leur demander de laisser leur fille à la maison pour 14 jours. Les nouvelles consignes ont été placardées à l'entrée de l'école et envoyées par mail à tous les autres parents comme Leandro qui a un fils en CP.
Elle m'avait envoyé ça. Si vous et votre enfant avez séjourné à Chine, Corée, Italie, en Lombardie, en Vénétie, pendant 14 jours après le retour, votre enfant ne peut pas être accueilli à l'école. Ça m'assure pas, ça me fait peur, ouais, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il y a un problème, je ne sais pas.
Alors non, on le rappelle, ce sont uniquement à ce stade des mesures de précaution, prises aujourd'hui d'ailleurs pour 2 autres écoliers à Paris. On l'apprend ce soir, 8 élèves aussi d'un lycée de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine qui revenaient de Vénétie, ou encore 5 jeunes d'un conservatoire de Villeneuve-sur-Lot rentrés hier de Lombardie, tous invités à rester chez eux pendant 14 jours.
Théo, pourquoi est-ce qu'on isole les enfants et pas les parents alors?
C'est vrai que la question m'a été beaucoup posée devant cette école, parce que les consignes qu'on donne aux adultes qui reviennent de ces zones seraient trop difficiles à faire respecter aux enfants, éviter le contact les uns avec les autres. Vous voyez une cour d'école, porter correctement son masque toute la journée quand on a 6 ou 7 ans, c'est pas garanti. Il y a trop de risques que ça ne fonctionne pas et que les écoles se transforment en nid de propagation d'une épidémie, ce que le gouvernement veut éviter.
Les précisions ce soir de Théo Manval pour Europe 1.
Et on y reviendra bien entendu hein, avec d'autres éléments et d'autres sujets. Éric Ciotti, notamment notre invité dans 20 minutes. Précisons en tout cas qu'il n'y a plus aucun cas de contamination en France, même si l'épidémie prend de l'ampleur à nos frontières en Europe.
Et en particulier en Italie, où deux nouvelles régions sont touchées, la Toscane et la Sicile. 283 cas à travers le pays, 7 morts. La région de Milan reste la plus fortement touchée et des questions sont soulevées ce soir sur l'origine de ce foyer. Bonsoir Romain Oquet.
Bonsoir.
Vous faites partie des reporters d'Europe 1 présents sur place en Lombardie. Le gouvernement italien a reconnu aujourd'hui des dysfonctionnements dans un hôpital local.
Oui, c'est une information déterminante car c'est la première fois que Giuseppe Conte désigne un responsable, à savoir un hôpital. Les dysfonctionnements de l'établissement auraient favorisé la propagation du virus. C'est ce qu'a expliqué le Premier ministre italien ce matin lors d'une conférence de presse.
Il y a eu une gestion au niveau d'une structure hospitalière pas complètement appropriée selon les protocoles de prudence recommandés dans tel cas. Et cela a certainement contribué à la diffusion.
Alors Giuseppe Conte désigne sans le nommer l'hôpital de Codogno, le foyer de l'épidémie en Lombardie. C'est dans cet hôpital qu'a été admis le patient 1, le premier cas en Italie. Il s'agit d'un homme de 38 ans, toujours en soins intensifs. C'est lui le point de départ d'une grande partie des cas recensés dans la région. Les chercheurs veulent désormais comprendre comment cet homme a contracté la maladie, car lui n'est pas allé en Chine. Son entourage n'a pas non plus été contaminé. Il faut donc trouver le patient 0, celui qui a importé le virus en Italie. Les pistes mènent pour l'instant à un agriculteur de 60 ans originaire de Vénissie, une énigme à résoudre et qui permettrait de mieux mesurer la propagation du virus en Italie.
Romain Oquet, envoyé spécial d'Europe 1 en Lombardie.
Et ce soir, le ministre de la Santé italien réunit ses homologues des pays voisins, dont le ministre français Olivier Véran à Rome, pour coordonner l'action européenne avec les propos du ministre à l'instant.
Et j'ajoute que la Suisse et la Croatie ont connu aujourd'hui leur premier cas. En Iran aussi, l'épidémie prend de l'ampleur. 15 morts et une centaine de cas annoncés, dont le vice-ministre de la Santé lui-même contaminé.
Et le ministre de la Santé chez nous, Olivier Véran, l'indiquait à l'instant. Pas de fermeture des frontières, c'est disproportionné à l'heure où nous sommes. Pas lieu d'annuler non plus, à ce stade, les grands événements sportifs, tant que les scientifiques ne le demandent pas. Quant au partage des données et des coopérations, eh bien, c'est intégral à l'heure qu'il est. Tout se fait de la manière la plus transparente, dit Olivier Véran à la sortie de cette réunion à Rome.
Et puis aux Canaries, sur l'île espagnole de Tenerife, des centaines de touristes se retrouvent confinés depuis ce matin dans un hôtel. Un vacancier italien a été dépisté positif. L'hôtel a été placé à l'isolement dans l'attente de nouveaux examens pour confirmer la contamination.
Dans ce contexte, des voix s'élèvent pour prendre des mesures bien plus drastiques en France. Aujourd'hui, Marine Le Pen a demandé le rétablissement des contrôles aux frontières.
Et une décision fait particulièrement débat. Le match de foot entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin aura bien lieu demain en Ligue des Champions à Lyon et les supporters italiens seront autorisés à venir.
Et c'est notre coup de fil du 18h ce soir. Bonsoir Christophe Quignoux.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le maire de Mézieux, commune où se situe justement le Groupama Stadium qui accueille le match. Pourquoi demandez-vous à l'État de revenir sur cette décision ?
Parce qu'il me semble que cette décision est irresponsable, qu'à un moment où on ne connaît pas le taux de propagation du virus et qu'il y a des craintes sur sa diffusion au niveau du territoire français, laisser venir 3000 supporters n'est pas raisonnable.
Le ministre de la Santé, pourtant lui-même, est très clair. Il dit qu'il n'y a aucun argument, ni scientifique, ni médical, qui justifierait d'interdire cet événement ou même de le fermer aux supporters, notamment parce que les zones contaminées en Italie, elles sont aujourd'hui confinées.
Oui, mais le ministre disait l'inverse il y a deux jours. Et les populations autour du stade, elles, sont très inquiètes et demandent justement à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises.
Elles vous disent quoi exactement, les populations ?
Elles nous disent qu'elles ont peur que des Italiens viennent propager sans contrôle ce coronavirus.
Vous allez prendre des mesures particulières demain sur votre commune ?
Alors, moi, je n'ai pas les moyens de prendre des mesures directement sur ma commune qui est juste à côté du stade. Les seules choses que je vais faire, c'est essayer de dissuader le contact avec, au maximum avec tous ces supporters.
Est-ce que vous avez pour autant des informations de l'État qui au moins prévient, informe, rassure ?
Non, aucun contact de l'État avec ma commune. Le coup était trop important. Je suis laissé seul.
Et bien, on a entendu votre réaction ce soir. Merci Christophe Quignoux d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Mézieux où aura lieu ce match demain près de Lyon.
Voilà, donc faut-il prendre des mesures plus restrictives au nom du principe de précaution ? On en parle également juste après le journal avec mon invité Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. On en débat également avec les grandes voix à 18h30 dans ce studio.
Enfin, sur le plan économique, pour être tout à fait complet ce soir sur ce sujet, sachez que la Banque de France s'apprête à réviser légèrement sa prévision de croissance pour l'année 2020, qui était jusque-là à 1,1%.
Il est 18h08, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
L'actualité politique, c'est la réforme des retraites qui continue d'agiter les débats à l'Assemblée nationale, examen paralysé par la stratégie d'obstruction de la France insoumise. Aujourd'hui, les Républicains ont demandé à repousser complètement le débat au-delà des municipales. Et le Premier ministre, Édouard Philippe, a clairement laissé la porte ouverte à l'utilisation de l'article 49.3 qui permettrait une adoption sans vote.
Mon sujet, mon ambition, c'est évidemment de faire en sorte que le débat ait lieu, qu'il soit le plus sérieux, le plus approfondi. Mais si ça n'est pas possible, si, au bout de très nombreuses heures de débat, nous constatons que ça n'est pas possible, alors la Constitution, Monsieur Abadé, Monsieur le Président, vous le savez parfaitement, autorise, le cas échéant, le Premier ministre à utiliser un article, le 49.3. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution.
Voilà, Édouard Philippe tout à l'heure à l'Assemblée, propos recueillis par Adrien Beck.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
La Cour des comptes, elle n'est pas tendre avec le gouvernement sur les déficits et les aides au logement. C'est à suivre dans votre journal, Sébastien.
Et puis écoutez, la musique changée. Plutôt la façon dont on écoute la musique, l'industrie du disque qui revit grâce aux plateformes légales et aux vinyles. À tout de suite.
Deux heures d'infos, c'est votre grand journal du soir pour écouter le monde changer sur Europe 1. 18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
La France ne fait pas assez pour limiter ses déficits. C'est la conclusion du rapport de la Cour des comptes publié aujourd'hui même, avec des mots qui ne sont pas franchement tendres pour le gouvernement.
Ambition limitée, redressement des finances à l'arrêt, notamment après les mesures de réduction d'impôts. Et puis il y a un deuxième point important sur lequel on s'arrête ce soir avec vous, Olivier Samin. Bonsoir.
Bonsoir.
Ce sont les aides au logement jugées trop compliquées, voire injustes.
Oui, la critique porte notamment sur la possibilité pour les étudiants de toucher l'APL tout en étant rattachés à leurs parents, ce qui revient dans les faits à supprimer les conditions de ressources. Si vos parents ont un bon train de vie, c'est tout bénéfice pour eux. Ils n'ont pas à vous aider pour payer votre loyer puisque les aides au logement s'en occupent. D'où la recommandation déjà faite par la Cour il y a 5 ans, imposer le choix pour les étudiants entre percevoir l'APL ou être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. L'un ou l'autre, mais pas l'un et l'autre. Au-delà de ça, c'est le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui qui est pointé du doigt. La complexité du dispositif s'est accrue pour l'allocataire ces dernières années, dit le rapport, et sa lourdeur de gestion non seulement génère des coûts, mais en plus augmente les risques en termes de fraude et d'erreur.
Alors Olivier, partant de là, la Cour des comptes salue la réforme que le gouvernement va mettre en place.
Oui, réforme plusieurs fois retardée, qui doit s'appliquer en principe à partir du 1er avril prochain et qui vise à calculer les aides au logement à partir des revenus actuels du bénéficiaire et non plus à partir de ce qu'il touchait 2 ans plus tôt. Plusieurs associations voient dans cette réforme un moyen de réduire la facture des aides au logement pour l'État. Le résultat sera bien celui-là, effectivement, mais la Cour des comptes, elle, y voit l'opportunité de rendre le régime plus simple, durable et accessible.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. On retient aussi que le rapport de la Cour des comptes épingle la prestigieuse école polytechnique pour sa situation financière préoccupante.
À l'étranger maintenant, la mort d'Hosni Moubarak. Il avait dirigé l'Égypte d'une main de fer pendant 30 ans.
Avec un parti unique et un appareil policier puissant jusqu'au printemps arabe de 2011 qui le fit tomber. Hosni Moubarak est mort au Caire. Il avait 91 ans. En Iran, inquiétude sur la santé de la Française Farida Adelka, cette chercheuse anthropologue emprisonnée depuis le mois de juin dernier pour des accusations politiques. Elle a été hospitalisée après une grave détérioration de son état. On se souvient qu'elle avait mené une grève de la faim pendant 2 mois.
Et puis on revient en France parce que Bernard Tapie reporte en fait son retour au théâtre. Il devait jouer à partir du mois de mai.
Ah oui, une pièce de théâtre vole au-dessus d'un nid de coucou. Lui qui continue de lutter contre un cancer et suit un nouveau traitement expérimental en Belgique ne pourra pas être sur scène. Traitement très dur à supporter, fait savoir son entourage qui assure qu'il est bien décidé à jouer cette pièce à l'automne.
Il attendait ce projet avec impatience, ça aurait dû commencer le 20 mai. On parle aussi musique ce soir, Sébastien, ou plutôt de la façon dont on l'écoute, c'est aussi le signe d'un monde qui change.
Le marché du disque se porte mieux, croissance plus 5% en 2019. Enfin, je dis du disque, plus vraiment parce que la musique, on l'écoute désormais sur les plateformes légales et payantes par abonnement. L'évolution dans les chiffres est spectaculaire. Angèle Châtelier.
C'est ce qui devrait sauver l'industrie. Plus de 9 millions de Français payent un abonnement sur Spotify, Deezer ou autre. Une progression de plus de 18%, ce qui fait des abonnements payants la première source de revenus devant le CD. Le streaming, à lui seul, représente 59% du marché. Mais le disque continue à se vendre et à générer des revenus, presque 37%, surtout pendant les fêtes. Et c'était sans compter sur le retour du vinyle. Plus 12% en 2019, c'est beaucoup. Et puis, ce ne sont pas que les groupes qui ont déjà quelques années de carrière derrière eux. Angèle, Aya Nakamura, L'Homme Pâle et d'autres vendent aussi des galettes. Et surtout, ces nouveaux talents rayonnent. Un quart des disques les plus vendus sont des premiers albums.
Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse.
Mais si depuis 4 ans, l'industrie est en pleine croissance, tout n'est pas encore gagné. Selon le SNEP, le marché rattrape tout juste celui d'il y a 10 ans et ne représente que 44% de celui de 2002, année du début de la crise du disque.
Le carton du vinyle, notamment, 4 millions de vinyles vendus l'année dernière. Et pas seulement des vieux vinyles, c'est aussi Angèle et les autres.
Et puis ce sont de beaux objets, parce que celui d'Angèle qu'on écoute, il est tout bleu fluo.
Et le retour du disque objet.
C'est ça.
Et vous savez qu'on peut trouver des platines branchables sur ordinateur maintenant. Alors qu'il y a 15 ans, on trouvait même plus de vinyle dans les commerces. Incroyable. Comme quoi, hein. Le monde change. Voilà. Merci à vous, Sébastien Krebs. Vous revenez tout à l'heure sans faute à 18h30. Et Anissa nous dit quoi?
Eh bien,
que l'hiver, voilà, que c'est l'hiver qui va commencer maintenant, en fait.
Oui, alors. Pas sûr que ça dure très longtemps, mais effectivement, demain, nous allons avoir un temps de plus en plus hivernal. Déjà, aujourd'hui, ça a commencé avec cette perturbation qui traverse le pays. Eh bien, cette nuit, c'est quasiment sur toute la France que va s'abattre des averses assez soutenues. Et demain matin, dès le début de la journée, sur la région parisienne, la Bourgogne, le Nivernais, le Massif central, la vallée du Rhône, eh bien demain, là, il va neiger à basse altitude, à partir de 500 mètres, voire même en pleine. Donc vous pourriez voir des rues qui vont blanchir dans le courant de la matinée sur certaines communes. Il y aura également du grésil et des orages. Dans le sud-ouest, les averses, là aussi, seront nombreuses demain toute la journée. En Corse aussi, beaucoup d'averses et de la neige à partir de 1300 mètres. En plus de cette atmosphère très humide, le vent d'ouest, nord-ouest souffle encore demain jusqu'à 90 km/h dans les terres. On aura 90 km/h sur le massif central. Et sur le nord-ouest, le sud, le centre-val de Loire et le bassin parisien, demain dans l'après-midi, on aura droit quand même à quelques éclaircies et un temps un peu plus sec. Les températures, elles baissent 2 à 7 degrés sur la façade ouest demain matin, 7 à 11 au bord de la Méditerranée.
Europe 1.
Et la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec vous Nathalie Lévy et avec votre invité dans un instant.
Oui, il a pris la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale cet après-midi même pour demander une fois encore au gouvernement d'agir vite, gouvernement qu'il accuse d'avoir un temps de retard sur l'épidémie de coronavirus qui se rapproche, on le sait, on l'a vu avec le virus très installé en Italie dans le journal de Sébastien Krebs, le député des Alpes-Maritimes à la frontière donc italienne, Éric Ciotti, mon invité dans 2 minutes dans ce studio.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et on parle du coronavirus qui est donc aux portes de l'Europe et votre invité demande un plan d'urgence au gouvernement. Il est député des Alpes-Maritimes. Vous recevez ce soir en direct Éric Ciotti.
Bonsoir Éric Ciotti.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là ce soir dans ce studio. C'est ce que vous demandez précisément aujourd'hui au Premier ministre pour votre département frontalier avec l'Italie. Un plan d'urgence, c'est ça? Qui consisterait en quoi?
Quelle est la situation? Nous avons aujourd'hui, depuis vendredi, l'apparition fulgurante de 300 cas de coronavirus en Italie. Dans des régions frontalières de la mienne, notamment au Piémont, un peu plus loin en Lombardie, l'Italie est un pays avec lequel nous avons des liens permanents. Chaque jour, des dizaines de milliers d'Italiens viennent dans les Alpes-Maritimes, d'Azuréens vont en Italie. Le week-end, on peut dire que c'est peut-être plus de 100 000 personnes. Les flux sont permanents. Je ne vois pas pourquoi le virus s'arrêterait à la frontière. On est un peu dans la même image que pour le nuage de Tchernobyl. On nous dit tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir, nous on est parfaits et eux ils sont mauvais.
Mais alors quoi, concrètement?
Je pense qu'il faut se préparer au pire. Le pire n'est pas certain et naturellement j'espère que tout va bien se passer, mais j'appelle à un principe de précaution, j'appelle à un plan d'urgence, plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes et dans les départements.
Précisez-moi votre pensée, monsieur Ciotti, un plan d'urgence qui consisterait en quoi?
Alors,
concrètement,
trois volets. Un volet d'information aux frontières, hein, qui permet de tracer la traçabilité des personnes qui arrivent en France, de quelle région viennent-elles, à tout le moins qu'on leur donne un document qui précise les comportements à adopter en cas de soupçon de contamination.
D'accord.
C'est pas le cas aujourd'hui, donc je demande que ça soit systématique pour tous les véhicules, pour tous les passagers des trains, pour tous les passagers des bateaux et pour tous ceux qui viennent de pays qui sont contaminés.
D'accord.
Jusqu'à hier, ce n'était pas fait. Je demande également qu'on s'équipe de détecteurs de température. Ça ne détecte pas tous les cas, médecins l'ont dit, mais néanmoins, ça peut être utile, notamment à la sortie des avions, et c'est relativement simple. Je demande également qu'on adapte nos dispositifs d'accueil des patients potentiels dans nos établissements hospitaliers. Il faut savoir qu'à cette heure, les tests de dépistage ne sont pas possibles Nice.
Mais ils le seront demain. Ils ne le seront pas demain ?
Alors, ça, c'est la version...
Les tests supplémentaires seront disponibles demain ? C'est l'ARS qui l'avait confirmé ?
L'ARS l'a dit hier dans la réunion que nous avons eue autour du préfet des Alpes-Maritimes. Mais la réalité est quelquefois différente de la communication officielle. Donc, les tests seront officiels, seront effectifs à partir du lundi 2 mars.
Prochain.
Alors, aujourd'hui, ils sont effectués à Marseille. Ça rallonge
de quelques kilomètres
de détection de 5 heures. Mais
donc,
ça serait préférable qu'on s'adapte immédiatement.
Éric Ciotti, est-ce que aujourd'hui vous doutez dans la parole du gouvernement ? Aujourd'hui, il ne cache rien des risques de contagion en France. Toutes les mesures sont prises. D'ailleurs, regardez les contrôleurs SNCF. Ils ne vont plus jusqu'en Italie.
Mais c'est leur décision.
Oui.
C'est leur décision.
Il n'empêche qu'ils n'ont pas été obligés de le faire. Donc aujourd'hui, est-ce que vous considérez que toutes les mesures sont prises par le gouvernement, oui ou non ? Est-ce qu'on a pris la mesure du phénomène, de la situation ?
Je l'ai dit tout à l'heure à l'Assemblée nationale. J'ai interrogé le Premier ministre. J'ai trouvé, et pas que moi, je crois l'ensemble des élus des Alpes-Maritimes, qu'il y a eu un temps de réaction très long ce week-end. Samedi, on a pris connaissance du nombre de cas qui commençait à croître de façon exponentielle en Italie. Moi, des médecins du CHU de Nice et un chef de service m'a notamment alerté sur le risque sanitaire majeur qui pouvait nous toucher très vite et sur l'inadaptation de nos structures hospitalières à ce risque. C'est pour cela que j'ai saisi le Premier ministre dimanche, mais il ne s'est pas passé grand-chose entre vendredi et lundi. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de rattraper ce retard.
D'accord.
Il est nécessaire d'acheter les masques n'ont été achetés que lundi. Je prends cet exemple.
Vous dites pas
on
pour
aurait
autant...
pu sincèrement anticiper sur l'achat de ces masques pour les professionnels
aujourd'hui,
de santé.
Aujourd'hui, Olivier Véran, le ministre de la Santé, à la suite d'une réunion à Rome, dit pas de fermeture de frontières, c'est disproportionné. Vous souscrivez ce soir ?
Moi, contrairement à quelques réductions rapides qui ont été faites, je n'ai jamais demandé la fermeture des frontières. Je demande des contrôles
plus resserré,
quasi systématique, une information systématique. Mais pour autant, pourquoi se priver de cette mesure
si
elle devient nécessaire ? Il y a des pays qui ont recours, certes des pays qui ont des régimes, on peut dire, démocratiques différents.
Donc vous pourrez déroger aux accords de libre circulation.
C'est l'article 25 de Schengen. D'ailleurs, je vous signale qu'on y déroge déjà. Parce que dans la lutte contre le terrorisme, depuis le 13 novembre 2015, on déroge déjà. Il y a aujourd'hui des contrôles, ils sont aléatoires, ils ne sont pas systématiques, sur les véhicules à la frontière qui sont possibles et qui sont effectués. Donc, si demain, il y a une urgence sanitaire,
pourquoi ne pas revenir à ce moment-là sur les accords de libre circulation ?
N'ayons pas de tabou. Des spécialistes le disent d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui garantira que le virus ne passe pas. Ouais. Naturellement, je ne dis pas ça, mais ça peut retarder dans une situation de crise majeure.
Aujourd'hui, Éric Ciotti, vous dites néanmoins que si les autorités, là, ce week-end, ont eu un temps de latence trop long, depuis le début de cette crise, on a pris, en France, la mesure du problème ?
Disons que sur les cas qui sont apparus en Chine, dans la région de Wuhan, je pense que les mesures de mise en quarantaine ou quatorzaine, comme dit le Premier ministre, les personnes qui arrivaient de Chine et qui ont été placées dans des centres d'accueil dans les Bouches-du-Rhône, à Carril-Rouet, à Aix, dans l'école des officiers des sapeurs-pompiers, étaient des mesures adaptées. Ce qui a été fait aux contaminés de Montjoie était une situation adaptée. Mais on avait eu sans doute l'image que tout se passait en Chine et que traiter ces cas suffisait. Là, le virus, il est à nos portes. Il est sans doute vraisemblablement chez nous. En tout cas, il est en Europe, il se propage et on est dans un cadre différent.
Que vous dit la population dans votre département, Éric Ciotti, aujourd'hui ?
Il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude parce qu'on a une proximité, une histoire même très, très forte avec l'Italie. Il y a des flux, comme je vous le disais au début, quotidiens. Et donc, forcément, on imagine que le virus qui est à Turin, le virus qui est à Milan,
il
risque d'arriver assez vite.
Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui le dit très clairement, qui veut, elle, la fermeture des frontières. Vous nous dites, il faut attendre de voir, c'est ça, en gros. On ne s'interdit rien.
C'est
mais
autorités.
Quel sera le stade ? Comment on peut quantifier ? Comment
pas,
on peut ?
C'est pas un débat politique, je veux dire.
Ça le devient, Monsieur Ciotti.
Oui, mais le fait que par principe, parce que je le dis ou parce que Madame Le Pen dit quelque chose, ça devient une abomination. Je crois qu'il faut faire confiance. Il y a des médecins.
Voilà, c'est ça. Il y a des médecins, il y a des scientifiques.
Le président de l'ordre du Conseil de l'ordre des médecins suisses l'a dit. J'ai lu une interview d'un infectiologue de l'Institut Pasteur qui dit. C'est pas une question qui peut. C'est une question qui peut se poser. Moi, je dis, soyons pragmatiques. Mais par principe, je dirais quelque part un peu de façon idéologique, on ne se prive pas de cette mesure. Il y a la question de l'interdiction des manifestations aussi qui se pose. Pourquoi,
typiquement, vous faites aussi, référence au match OL-Juventus.
Bien sûr, moi, je trouve assez incohérent qu'on laisse venir des supporters italiens de Turin, qui est une région où le virus est présent, et que lorsque des enfants qui ont séjourné dans ces régions arrivent en France, on leur interdise d'aller en classe.
Donc vous dites qu'il aurait fallu interdire le match demain ? 3000 supporters italiens attendus.
Ou la venue des supporters, ou de reporter le match. Je pense que ça aurait été une mesure de précaution utile.
Merci beaucoup Éric Ciotti d'être venu ce soir jusqu'à nous, président Les Républicains du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Merci à vous.
Europe 1.
Votre grand journal se poursuit avec dans un instant Nathalie Lévy.
Le débat des grandes voix dans un petit instant et bien sûr juste avant c'est le rappel des titres de Sébastien Krebs.
Et vous pouvez réagir et interpeller les grandes voix au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Votre grand journal du soir jusqu'à 20h.
Europe 1.
18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Il n'y a pas lieu de fermer les frontières, dit ce soir Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui répond notamment à Marine Le Pen, qui demandait des mesures plus drastiques pour limiter les déplacements. Le ministre de la Santé qui s'exprimait depuis Rome, où se tient une réunion de plusieurs pays européens. Pas lieu non plus d'annuler des événements publics, dit-il, à propos du match de football prévu à Lyon demain contre Turin. Et cela alors qu'on apprend que l'Autriche est à son tour touchée dans la ville touristique d'Innsbruck. Un hôtel vient d'être placé en quarantaine. Dans le journal de 18h, nous vous révélions que deux enfants de retour de vacances en Italie ont dû être écartés de leur école à Paris par précaution pour 14 jours. La condamnation de Reda Hameu, djihadiste proche des terroristes du 13 novembre 2015. Il écope de 12 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises spéciale de Paris. Enfin, ce chiffre record. Record absolu pour le musée du Louvre. Plus d'un million de personnes ont visité l'exposition Léonard de Vinci qui a fait fermer ses portes hier après un dernier week-end d'ouverture jour et nuit. Un million de visiteurs, c'est presque le double du précédent record détenu par l'exposition consacrée à Delacroix.
Sébastien, vous revenez à 19h avec un journal complet. Merci à vous. Du froid demain, nous dit Anissa.
Oui, effectivement, les températures sont en baisse. Demain, on est sur une journée assez hivernale. Nous aurons moins 2 dans les Hautes-Alpes, 0 à Aurillac, 2 à Strasbourg, 3 pour Paris le matin, jusqu'à 9 à Marseille. Et c'est une journée très humide puisque tout le pays sera touché, sauf la Côte d'Azur. Donc demain, vous allez vous réveiller avec des averses, du vent fort, des nuages et des chutes de neige à basse altitude. On attend même de la neige en pleine. Alors il faut savoir que ce temps va continuer jusqu'à la fin de semaine avec des températures qui vont se stabiliser. On ne va pas avoir une très très grande chute des températures, mais on va avoir un temps humide et nuageux comme ça au moins jusqu'à dimanche.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Et c'est l'heure du débat des grandes voix avec autour de vous. Ce soir jusqu'à 19h, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et toutes vos réactions, vous pouvez participer au débat évidemment. Ça se passe au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Nathalie.
Très heureuse de vous retrouver dans ce studio en pleine forme. Des grandes voix qui ne sont pas touchées par le coronavirus, heureusement. Mais qui sont très attentives à cette situation comme nous tous. Parce qu'on l'a dit, l'Italie aux portes du confinement. Désormais l'Autriche, Sébastien Krebs nous l'apprenait à l'instant, la Croatie, la Suisse et même l'Iran, le Koweït ou encore l'Afghanistan. Voilà, les pays comme ça s'enchaînent, plus d'une trentaine désormais touchés par cette épidémie. Et de fait, l'épidémie s'invite dans les débats politiques chez nous en France. et notamment à la veille des municipales. N'est-ce pas, Charles Villeneuve, ce soir, vous aviez envie d'aller là-dessus pour commencer, parce que on l'a entendu hier matin, déjà sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk, c'était Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Ce matin, Anne Hidalgo, la maire actuelle, lui a répondu. Et ce soir, vous aviez envie d'aller sur cet aspect-là, cette guerre ouverte dans cette campagne des municipales.
Bah, si vous voulez, moi j'étais surpris qu'un feuilleton s'ouvre tous les matins à 8h20 au micro de Sonia Mabrouk. Au moment même où il n'y a plus aucun malade hospitalisé en France, voilà qu'un virus d'un genre différent, si vous voulez, c'est en quelque sorte a créé un foyer d'infection qui est donc tous les matins sur Europe 1. C'est l'ex-ministre, et il y a peu encore, elle était ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a ouvert le feu, si j'ose dire,
avant-hier,
lundi matin, qui reproche à sa rivale, la maire de la capitale sortante, Agnès Hidalgo, de ne pas avoir préparé les Parisiens, les capitales, à une éventuelle épidémie.
Bah oui.
Du coronavirus, le Covid-19.
Hein, absolument.
C'est sous nos noms. Et évidemment, cet épisode va continuer demain. Maintenant, je ne sais pas si Rachida Dati.
Alors, on verra. Déjà, on écoute Anne Hidalgo ce matin, si vous le voulez bien.
Mais effectivement, on peut entendre la réponse.
Ça, c'est la réponse d'Anne Hidalgo ce matin.
Je trouve ces propos tellement irresponsables de la part de l'ancienne ministre de la Santé que les bras m'en tombent presque.
Les bras m'en tombent presque. Effectivement, Anne Hidalgo qui avait le souffle coupé quasiment ce matin, mais qui a répondu précisément. Et demain, à 8h20, ce sera effectivement Rachida Dati.
Elle a amené d'ailleurs deux documents, deux lettres. L'une envoyée par la ministre qui l'a félicité, justement, de cette préparation et sa réponse au ministre
Alors,
de
suite,
la Santé.
Peut-être au prochain épisode, demain matin, 8h20, ce sera Rachida Dati, les Républicains. Gérard Carrérou, vous observez, vous aussi, cette bataille politique qui commence. On l'a entendu, Éric Ciotti, plus modéré peut-être quand même que Marine Le Pen, précisément, dans la manière de gérer les frontières aujourd'hui.
Il est normal que Marine Le Pen ait senti une opportunité. Elle a souvent le sens des opportunités qui se présentent. Là, il s'en présente une, qui est le débat que l'on sent en train de monter fortement dans les réactions des uns et des autres, mais dans la population, même beaucoup de gens disent « Mais pourquoi ne pas fermer les frontières pour se protéger ?»
Il faut contrôler nos frontières, nous ne le faisons pas. Moi, je persiste à dire que je trouve totalement incohérent de rapatrier des Français de Chine pour les mettre en quarantaine et en même temps de laisser 3, 4, 5 avions par jour en provenance de Chine.
Oui, alors donc voilà exactement une position qu'on peut, selon ses opinions, on peut qualifier ça d'une position aventureuse, une position exagérée, on ne va pas fermer les frontières. Mais pour Marine Le Pen, elle sait que beaucoup de gens ne trouvent... Moi, d'ailleurs, pourrais-je le dire, c'est incohérent d'expliquer que des enfants qui sont rentrés de pays où il y a la maladie, ont été mis en quarantaine sans préavis, hein, si j'ose dire, on l'a annoncé la veille, et les parents sont même déjà trouvés probablement en difficulté pour les faire garder. Incohérent de faire ça d'un côté et de mettre par exemple la possibilité à 3000 supporters italiens de rentrer. Donc il y a un débat.
Pour un match.
Pour un match de
Lyon.
Foot. C'est donc, je veux dire, Marine Le Pen... elle sent qu'il y a une opportunité. On verra dans les. Il me semble que ce thème est en train de monter fort.
Oui, elle en profite d'ailleurs, selon de parler des immigrés qui eux traversent la frontière clandestinement et qu'il faudrait quand même contrôler.
Oui, donc
c'est la surenchère habituelle des droites dures, Catherine Ney.
Comment ?
C'est la surenchère habituelle des droites dures.
C'est des oppositions, c'est-à-dire.
Ni plus ni moins.
Parce qu'on voit bien, et ça, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a reconnu que pour l'instant, on était on se posait encore trop de questions pour avoir vraiment des certitudes sur, d'ailleurs, ce que ça va être une vraie pandémie ou pas. Et il dit, dans le fond, les certitudes se font jour après jour sur la façon dont ça va évoluer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois ont fait un vrai rapport pour la première fois, il y a 77 000 cas. Avec 2,5% de taux de mortalité. On sait combien de gens ont eu besoin d'oxygène, les cas graves, les cas pas graves, qui est mort et tout ça, sur 77 000, ce qui est le plus gros contingent de malades.
Exactement. Bon.
Oui, alors,
on en reparle dans un instant,
mais d'autres chiffres. Sur la spécificité du virus.
Et les conséquences économiques aussi, on se retrouve dans un instant avec vous les grandes voix.
Vous écoutez Europe 1, votre grand journal du soir, il est 18h40. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix ce soir autour de vous. Nathalie Lévy pour débattre autour de l'actualité. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Oui, on se parle bien sûr du coronavirus parce que l'Italie est aux portes du confinement désormais. On l'a cité, plus d'une trentaine de pays désormais touchés par l'épidémie. Un bilan qui dépasse largement les 30 morts hors de Chine. Et la question de l'économie aussi qui se pose. On va y venir avec vous, les grandes voix. On voit bien qu'il y a un peu de poids, de mesure. Et vous l'avez dit, Catherine Ney, Gérard Carrérou, notamment des enfants désormais confinés, sans préavis. Alors qu'il y a 3000 supporters italiens attendus demain pour l'Olympique lyonnais face à la Juventus de Turin. Il y a cet aspect-là, on voit que le foot reste très important. Et puis, il y a aussi les questions économiques avec cette baisse de la croissance qui est d'ores et déjà annoncée. La Banque de France s'apprête à baisser légèrement sa prévision de croissance pour 2020. C'était annoncé tout à l'heure.
Oui, ça m'a surpris. La rapide, pour le coup, on peut reprocher certaines réactions, parfois un peu lentes, venant des autorités. Mais alors là, pour ce qui concerne la Banque de France, elle est allée très vite. Mais cela étant, ce n'est pas étonnant. Quand on voit que le tourisme sur la France, et sur Paris notamment, puisque Charles parlait tout à l'heure de Paris, sur le tourisme chinois va baisser de 70%. C'est-à-dire que pratiquement, on peut dire que le tourisme chinois, pour les trois prochains mois, peut-être même au-delà, sera réduit à zéro. Et pas seulement ça. Vous croyez que les Américains vont venir en Europe? Les Américains qui aiment bien venir en Europe, qui aiment bien venir sur la Côte d'Azur, etc., croyez qu'ils vont se précipiter, les bataillons de touristes, pour venir si on leur dit que pratiquement les pays européens sont encore avec des contingents de maladies, etc. Donc, tant qu'on ne saura pas, et tant qu'on n'aura pas vaincu, si j'ose dire, la maladie, par peut-être à la recherche d'un vaccin, mais ça prendra des mois, il y aura effectivement une... Et les entreprises, on est obligé de mettre en quarantaine un certain nombre d'endroits, ça peut arriver, c'est
bien
arrivé
entendu.
En Italie, mais on n'est pas immunisé contre ça.
Mais évidemment, vous parlez du tourisme, Gérard, mais il y a l'automobile, l'électronique aussi qui est déjà touchée. Plus globalement, les entreprises présentes évidemment en Chine, ce pays maillon essentiel de la chaîne
de
production.
Mais les pièces détachées,
ça va être... Voilà.
Tout ce qui vient de Chine, c'est le laboratoire, enfin c'est pas le laboratoire, c'est l'usine du monde, la Chine. C'est l'usine du monde, l'usine du monde.
Parce qu'on a bien voulu leur donner...
Oui, on en a fait l'usine du monde au cours des 20 dernières années. L'usine du monde est en panne. Les chaînes de montage de l'usine du monde ne tournent plus. Bien évidemment, il va y avoir des tas de problèmes consécutifs à ça, pour notre économie.
Bien sûr, Catherine, il y a déjà des hypothèses qui sont établies quasiment, et des hypothèses terribles. Si l'épidémie est déclarée, nous pourrons revivre l'équivalent de la crise de 2008-2009, selon certains économistes mondiaux.
Les bourses ont baissé.
Les bourses ont déjà baissé, effectivement.
Oui, les bourses ont baissé, mais certains disent aussi qu'il y a aussi un jeu de ceux qui jouent à la bourse et qui disent, évidemment, c'est des valeurs qui ne devraient pas baisser et qui baissent, qui permettront de les racheter avant qu'elles remontent. Donc, il y a tous ces jeux-là. Est-ce qu'il faut céder à la panique? Voilà. Moi, je vois qu'à Paris, vous entrez dans une pharmacie et il y a toujours une cliente qui est là pour demander s'il y a des masques. Il y a cette peur. Bon. Mais c'est vrai que pour l'instant, est-ce que ça va être une grande pandémie? Quelle va être son ampleur? Pour l'instant, on ne sait pas d'où vient ce virus, on ne le sait pas. De quel animal l'a propagé, ça on ne le sait pas non plus. Et est-ce que les gens les plus contaminants sont ceux qui présentent des symptômes, qui toussent, par exemple, comme ce vice-ministre iranien qui toussait à la tribune en ayant dit qu'il n'y avait pas d'épidémie en Iran et qui a reconnu le lendemain qu'il était atteint par le coronavirus? Est-ce que ce sont ceux qui toussent ou ceux qui sont asymptomatiques, qui ont la maladie sans le savoir? On ne le sait pas encore. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Et même la stratégie des pays va évoluer selon l'ampleur...
Du phénomène de la propagation, de l'épidémie ou pandémie, Charles
Villeneuve. L'information essentielle, c'est le centre de préoccupation actuel, c'est l'Italie. Et tout va se jouer en 48 heures en Italie. C'est ça, si vous voulez, le centre de préoccupation et d'information. C'est là que ça va se passer, notamment aussi pour nous.
Pourquoi 48 heures?
Parce que les foyers épidémiques sont tous dans le nord du pays. Manifestement, ils sont en train de se déporter vers le sud,
la Sicile.
Et le risque, c'est ce qu'on appelle le stade des transmissions communautaires. Quand des personnes qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas été en contact avec des malades hospitalisés, sont contaminées et que les médecins ne peuvent pas rattacher à une chaîne de transmission précise. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que ça va se jouer en 48 heures.
Oui, je suis déjà assez frappé par le fait que ça s'est déjà joué sur les dernières 48 heures. Jusqu'aux dernières 48 heures, en gros, c'était circulé, il n'y a pas grand-chose à voir. Depuis 48 heures, on est monté en puissance de manière extraordinaire.
De toute façon, quand on commence à parler de confinement en Italie,
si le nombre en Italie sont autour de 250, là, je crois, aujourd'hui, si ça monte à 500, ça va être évidemment une nouvelle montée d'inquiétude.
Et le dernier bilan, justement, à l'instant, qui vient de grimper à 10 morts en Italie, tout dernier bilan à l'instant. On se retrouve dans un instant, les grandes voix.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, il est 18h47. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous ce soir. Nathalie Lévy, vous recevez Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou et toutes vos réactions en direct, ça se passe aussi au 39-21.
Avec Franck qui nous appelle du Morbihan. Bonsoir Franck.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Franck, vous revenez de Chine ?
Je suis revenu de Chine le 6 février, donc il y a plus de 15 jours maintenant. Ouais.
Vous étiez dans quelle région ?
J'étais dans la région du Fujian, c'est une province qui se situe en face de Taïwan, donc une zone côtière de la Chine.
D'accord.
Qui n'est pas une zone, touchée sur le territoire chinois.
D'accord. Et depuis que vous êtes en France, donc évidemment vous voyez la situation évoluer à la fois dans le Wuhan et dans le reste du monde, et qu'est-ce que vous faites vous ?
Alors, dès mon retour et dès mon arrivée sur le territoire français le 6 février, je me suis imposé une période de quarantaine. Donc, j'avais la chance de pouvoir rentrer à un domicile familial pour pouvoir m'isoler, ce que j'ai fait. Et à partir de là, j'ai continué à travailler à distance.
Et votre quarantaine a duré combien de temps ?
Ma quarantaine a duré 15 jours puisque je me suis fié aux informations qui étaient données à l'époque. Oui. Mais bon, si je m'en tiens maintenant aux nouvelles informations, je devrais peut-être me remettre en quarantaine pour une dizaine de jours en plus.
C'est pas établi. Non, c'est une supposition, mais c'est pas clair.
Et qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, vous qui arrivez de Chine? Vous voyez comment la situation est traitée là-bas et comment on s'y prend en France? Et vous êtes plutôt rassuré?
Alors, je suis pas inquiet sur les risques de la maladie. Par contre, ce qui m'étonne fortement, et je vous écoutais débattre à l'instant sur le cas de l'Italie, je pense que ça serait bien quand même de revenir aux sources du virus. Les sources de virus sont pas en Italie et sont en Chine. Moi, je suis rentré le 6 février avec un avion de Air China. Ce jour-là, il y avait 3 autres avions qui rentraient sur le territoire français de compagnies chinoises. Et j'étais un petit peu étonné par les procédures mises en place. Il n'y en avait pas du tout.
Il n'y en avait pas, c'est ça.
À l'arrivée. Donc ça, c'est une première chose. Il faut savoir que la France est une zone d'entrée sur la zone Schengen. Donc beaucoup de personnes qui arrivent en France ne restent pas forcément en France. Pour ce qui concerne l'Italie, la France est une zone d'accès pour les gens qui arrivent, les touristes ou les passagers qui arrivent de Chine et qui veulent aller en Italie. Rentrent pour la plupart par la France ou l'Allemagne, parce qu'il n'y a pas de vol direct pour l'Italie, donc il ne faut pas l'oublier. Et juste une information concernant mon vol du 6 février, à 80% dans l'avion, ce qui m'a un petit peu étonné, c'était des Asiatiques, alors des Français, il y avait des Asiatiques français, d'origine française, mais il y avait également beaucoup de personnes qui, je pense, n'avaient pas une raison légitime de venir, entre parenthèses, une raison légitime, je ne veux pas non plus, faut faire attention aux mots, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient confinés en Chine, qui ont suivi et qui ont respecté ce confinement, et qui ensuite ont décidé de quitter le territoire chinois pour venir faire du tourisme, peut-être en Europe.
Donc avec quand même une prise de risque potentielle, c'est ce que vous nous dites Franck ce soir depuis le Morbihan. Merci en tout cas de votre appel et ce témoignage quand même assez édifiant. Gérard Carrérou, vous étiez très attentif. C'est vrai qu'il faut le dire, on n'a pas le patient zéro dans ce coronavirus.
On ne l'a pas. Ce que monsieur a raconté, son témoignage est intéressant. Parce que dès le début, on en a même parlé ici, dès le début, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut faire quelque chose par rapport à ces dizaines et dizaines, on peut dire même centaines d'avions qui arrivaient de Chine pendant 15 jours. pendant 15 jours, vous imaginez. Bon, et on nous a expliqué, peut-être d'ailleurs a-t-on eu raison, j'en sais rien. Je ne critique pas, parce qu'il faut, il vaut mieux, dans ces périodes difficiles, une forme de solidarité civique que critiquer. Mais bon, j'ai été surpris qu'il n'y ait pas plus de contrôle aux arrivées. Ouais. Et maintenant, on dit, et d'ailleurs M. Ciotti tout à l'heure en parlait également, de dire qu'il faut remplir un certain nombre de choses, qu'on puisse tracer, simplement tracer les allées et venues des gens qui sont rentrés.
Oui, mais ça vaut pour les trains, parce que tout à l'heure, sur une chaîne, il y avait un Coréen qui arrivait de Milan et qui avait été très étonné qu'il n'y ait aucun contrôle à l'arrivée de ces avions qui venaient de ces trains qui venaient d'Italie.
Les trains, les voies maritimes également. Charles Villeneuve, ce que vous rappeliez aussi, même si on le dit, on n'a pas le patient zéro aujourd'hui, on ne sait pas non plus par quel vecteur la maladie s'est répandue en Italie, il faut bien le rappeler. Il faut aussi, et Gérard le disait, il faut garder son sang-froid.
Non, mais il faut se dire que la France, depuis les années 90, a installé un dispositif sanitaire contre les maladies infectieuses sans égal en Europe. De très loin, il y a des vieux routiers, des professeurs, je ne vais pas tous les citer, il y en a notamment trois, et notamment en province, parce que Paris n'est pas toute la France, aussi, qui sont des cracks contre les maladies infectieuses. Et puis, il y a aussi une grande différence, c'est qu'entre l'Italie et une certaine partie de l'Europe, le dispositif sanitaire français est sans égal non plus. Donc, il faut garder la tête froide par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, la France a montré, avec les premiers atteints justement de ce virus, qu'elle a traité ça très rapidement. Ils sont sortis guéris des hôpitaux.
Donc, vous dites que la panique est injustifiée.
Non, je ne dis pas que la panique est injustifiée. Je dis surtout qu'il ne faut pas se paniquer.
Ne pas paniquer, donc garder la tête froide et évidemment, même si on le rappelle ce soir, le bilan est passé à 10 morts désormais, c'est l'agence italienne qui le dit pour ce coronavirus qui peut-être va engager au confinement là-bas en tout cas, et donc aux portes de l'Europe, aux portes de la France. On suit cette situation de très près, on voit aussi les conséquences économiques avec vous les grandes voix. Merci à vous, à demain dans ce studio.
Europe 1.
À suivre Nathalie Lévy. À suivre un journal complet, celui de Sébastien Krebs, pour revenir sur la situation, ce coronavirus, le dernier bilan et toutes les informations avec.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy. La suite du programme pour la prochaine heure, Nathalie.
Avec l'interview politique, c'est Aurélie Herbemont qui reçoit ce soir le député PS des Landes, Boris Vallot, à 19h10 pour parler du dossier brûlant des retraites examiné en ce moment à l'Assemblée nationale. 19h20, demain en France, demain dans le monde et dans nos vies. Et puis 19h30, cinéma.
Bonjour,
cinéma.
Je m'appelle Adrien, j'ai 27 ans, je suis acteur. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, j'ai fait pas mal de films quand j'étais petit.
Est-ce que vous le reconnaissez?
On reconnaît sa voix,
Vincent Lacoste, un petit prodige du cinéma français qui vient nous parler de son nouveau film. Mes jours de gloire, c'est demain au Cinoche et qui parle de cette génération un peu perdue, vous savez, les adolescents, pour qui grandir paraît parfois insurmontable. On se reconnaît un peu tous.
Vincent Lacoste avec nous jusqu'à 20h et Mathieu Charrier aussi, qui viendra nous dire ce qu'il faut aller voir demain. Et vous pouvez poser toutes vos questions à Vincent Lacoste. N'hésitez pas, vous avez vu ses films, vous les avez aimés, vous voulez lui dire, ça se passe au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On lira vos messages évidemment. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
À l'heure actuelle, il n'y a pas lieu de fermer les frontières entre nos pays. Ce serait disproportionné et inefficace.
Le ministre de la Santé depuis Rome écarte l'idée de barricader la France. Pas lieu non plus d'annuler des événements publics comme le match de football Lyon-Turin prévu demain.
Les voyageurs revenant du nord de l'Italie sont tout de même appelés à prendre des précautions. Des enfants ont déjà été éloignés de l'école.
Dans ce journal aussi, en plein salon, le ministre de l'Agriculture se retrouve en porte-à-faux. Ses services ont envoyé par erreur des emails à l'association L214. Des emails reconnaissant la non-conformité d'un abattoir. Et puis ce record absolu au musée du Louvre, 1 million de visiteurs à l'expo Léonard de Vinci.
Et la tendance météo d'Anissa.
Avec une journée hivernale, demain effectivement des températures en baisse, des averses et surtout beaucoup, beaucoup de vent demain sur toute la France. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Les Européens ont donc décidé de garder les frontières ouvertes malgré l'épidémie de coronavirus qui prend de l'ampleur en Italie. Décision prise à l'issue d'une réunion à Rome de plusieurs ministres de la Santé, dont le français Olivier Véran.
À l'heure actuelle, nous souhaitons être extrêmement clairs sur le fait qu'il n'y a pas lieu de fermer les frontières entre nos pays. Ce serait disproportionné et inefficace. À ce stade, nous souhaitons également dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler a priori les grands événements publics, qu'ils soient de nature sportive ou culturelle, mais nous nous accordons la possibilité, au cas par cas, de regarder chaque situation en fonction de l'évaluation que nous aurons de la part des autorités scientifiques et sanitaires notamment. En période de crise, il y a des gestes, réflexes, normaux, qui se veulent protecteurs. Le repli, les tensions entre voisins ne doivent pas en faire partie. La solidarité, la transparence, le sens des responsabilités sont protecteurs.
Olivier Véran à Rome, et on apprend à l'instant qu'il y a deux nouveaux cas de coronavirus détectés en France. Une femme revenue de Chine et qui est hospitalisée à Paris, et un homme qui est hospitalisé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Olivier Véran le disait, donc les événements publics et sportifs sont maintenus. C'est une réponse notamment faite au maire de Mézieux, qui sur Europe 1, qui est maire de Mézieux en région lyonnaise, qui sur Europe 1 tout à l'heure dans le journal 18h, appelait l'État à annuler le match Lyon-Juventus de Turin qui est prévu demain, et où plus de 2000 supporters italiens pourront assister comme prévu.
Et l'épidémie de coronavirus qui a pris de l'ampleur en Italie avec près de 300 cas, qui gagne progressivement d'autres pays européens. On atteint le bilan de 10 morts hein, ce soir, c'est l'agence italienne qui l'a confirmé.
Avec des cas détectés aussi en Suisse, en Croatie et ce soir en Autriche. Un hôtel de la ville touristique d'Innsbruck a été placé en quarantaine. Une réceptionniste italienne qui y a travaillé a été testée positive. Personne ne peut donc entrer ni sortir en attendant que les autorités vérifient avec qui elle a été en contact. Situation similaire sur l'île espagnole de Tenerife, aux Canaries, où un hôtel est mis à l'isolement. Un touriste italien est en attente de résultats pour confirmer sa contamination.
Et puis en France, nous vous le révélions donc à 18h, outre les deux nouveaux cas annoncés à l'instant par Sébastien, deux enfants qui reviennent d'Italie du Nord ont été écartés de leur école à Paris. Ils doivent rester à la maison pendant 14 jours, conformément aux consignes du gouvernement.
Oui, mesure de pure précaution, des consignes passées aussi aux adultes en provenance de la région de Milan, porter un masque, éviter les lieux publics. Jeanne Bergaoui, vous avez rencontré des voyageurs à l'arrivée du train à Paris, ils vont prendre des précautions?
Oui, bien sûr. On s'en rend compte d'ailleurs dès le quai, par peur de la promiscuité. Beaucoup portent bien ce masque. Et puis, tous se tiennent informés. Ils suivent la propagation du virus. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Mathis et son ami à quitter Milan du jour au lendemain.
De peur de se retrouver en quarantaine, on a choisi, mon ami et moi, de rentrer aujourd'hui pour être plus en sécurité ici en France. Et on nous dit maintenant de nous mettre en confinement pendant 14 jours à notre rentrée en France.
Je ne sais pas si je tiendrai les 14 jours honnêtement, vraiment. Mais je pense que c'est un peu de la responsabilité civile de rester chez soi, mais au moins, ouais, 4 bons jours.
Alors on le rappelle, hein, la durée recommandée de confinement, c'est bien 14 jours. Ces deux étudiants prévoient aussi de prendre leur température plusieurs fois par jour. Et pour ceux qui se rendent en Lombardie ou en Vénétie, les mesures de précaution commencent aussi à se multiplier. Par exemple, depuis la mi-journée, les contrôleurs français ont pour ordre de descendre à Modane, à la frontière, pour être relayés par des collègues italiens. Sur le quai, personne ne semble au courant de cette nouvelle procédure.
Je ne savais pas du tout. Bon, j'espère que je me laisse aller à ma maison, hein, quand même.
Je trouve ça complètement inutile. Hein. Parce que ça ne changera rien. De toute manière, si le virus doit arriver, il arrivera. On ne peut pas l'empêcher. Il voyagera, il fera le tour du monde. Il faut juste avoir un peu de patience. Il faut comprendre ce qui se passe en ce moment.
S'ils en ressentent le besoin, les contrôleurs français ont désormais des masques dans leur sac. Et puis, par mesure de précaution, la SNCF affiche dans les gares toutes les recommandations du ministère de la Santé.
Le récit de Jeanne Bergaoui. J'ajoute qu'en Iran, deuxième foyer après la Chine, le vice-ministre de la Santé a lui-même été contaminé. Situation jugée très grave aussi en Corée du Sud, avec près de 1000 cas recensés.
Les inquiétudes sur l'impact économique, elles restent elles aussi vives. La Bourse de Paris a décroché de presque 2% encore aujourd'hui.
Et la Banque de France annonce qu'elle va revoir légèrement sa prévision de croissance pour 2020. La France ne fait pas assez pour limiter ses déficits. C'est la conclusion du rapport de la Cour des comptes publié aujourd'hui avec des mots qui ne sont pas tendres pour le gouvernement. Ambition limitée, redressement des finances publiques à l'arrêt, notamment après les mesures pour le pouvoir d'achat prises après la crise des Gilets jaunes.
Venons-en à ce que l'on peut appeler une boulette, des emails internes du ministère de l'Agriculture envoyés par erreur à l'association L214.
Ah oui, cette association qui révèle régulièrement des cas de maltraitance animale. Elle a reçu des échanges où des agents du ministère reconnaissent des non-conformités au sein de l'abattoir de Dordogne, abattoir qu'elle avait justement pointé du doigt dans une vidéo. Des propos totalement contradictoires avec ce que disait ici même sur Europe 1 le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. C'était dimanche soir au micro de Wendy Bouchard.
Les images sont des images qui sont prises sur plusieurs mois ou plusieurs années, qui sont collées les unes par rapport aux autres. Le respect du bien-être animal est là, montre que les choses se font, qu'il y a du contrôleur. On regarde les choses très tranquillement.
Voilà, très tranquillement, disait Didier Guillaume, sauf qu'en fait, les emails laissent exactement penser le contraire, Pauline Jacquot.
Oui, on est très loin de cette sérénité affichée par le ministre. Les messages publiés par l'association laissent entendre que plusieurs éléments étaient connus. « J'ai fait la liste », écrit un haut responsable, « de toutes les non-conformités indéniables, voire majeures ». Les mots sont écrits noir sur blanc. Un autre email venant du cabinet du ministre demande « des éléments de langage béton ». Ce sont des phrases toutes faites pour répondre aux médias. Sébastien Arsac, de l'association L214, demande aujourd'hui la démission du ministre.
C'est un mensonge, il sait très bien, c'est son cabinet, il est au courant qu'il y a effectivement des non-conformités, mais il vient dire exactement l'inverse au public. Quand ça dérange, quand les éléments vont pas dans le sens de soutenir la filière d'élevage et d'agriculture, le ministère est prêt à mentir et à fabriquer des éléments. On peut effectivement ne plus avoir confiance dans un ministère comme ça qui triche.
Embarras, évidemment, pour le ministre de l'Agriculture qui a dit sur Europe 1 que ces images étaient prises sur plusieurs mois, voire plusieurs années. L214, de son côté, maintient ses affirmations. Il y a eu des sévices graves et cet abattoir doit fermer ses portes.
Pauline Jacquot, merci.
On termine avec un record ? Le record absolu pour le musée du Louvre. Plus d'un million de personnes visitaient l'exposition Léonard de Vinci qui a fermé ses portes hier.
Un million de visiteurs, c'est presque le double du précédent record qui était détenu par l'expo consacrée à Delacroix. Écoutez l'un des commissaires, Vincent Delieuvin.
Alors on imaginait en faisant de Léonard de Vinci qu'évidemment on aurait un grand succès, c'était une figure populaire, très aimée du monde entier. Mais de là à parvenir à ce chiffre, non, c'est vraiment une chose qui est assez vraiment extraordinaire et qui montre la passion de tous pour cette figure de la Renaissance qui continue 500 ans après sa mort à fasciner tout le monde. Je crois que aussi le projet qui a été proposé par le musée du Louvre quand même a rencontré un succès. Et puis troisième chose aussi, effectivement, ont été mises en place des nocturnes, un certain nombre de nocturnes qui ont permis d'accueillir un plus grand nombre de visiteurs parce que la demande était tellement forte qu'effectivement le musée a su s'adapter aussi à cette demande très importante de la part du public.
L'un des commissaires de l'expo, Léonard de Vinci, au micro de Diane Chenouda pour Europe 1. Je vous rappelle simplement cette information qui vient donc juste de nous parvenir. Deux nouveaux cas de coronavirus détectés en France. Une femme qui est revenue de Chine et qui est hospitalisée à Paris et un homme qui rentre du nord de l'Italie, qui rentre de Lombardie et qui a été hospitalisé en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Évidemment, plus de précisions à 19h30 avec vous Anissa. Du côté du ciel, beaucoup de vent demain.
Oui, effectivement, une journée avec beaucoup de vent, ce vent d'ouest-nord-ouest qui se renforce dans la nuit avec demain matin, du vent sur l'ensemble du pays, sur les côtes, dans les terres, jusqu'à 90 km/h par exemple, sur le Massif Central, la vallée du Rhône, et puis du vent aussi sur la Corse. Alors en plus de ce vent, demain, la journée, elle va commencer avec, sur tout le pays, sauf la Côte d'Azur, un temps très humide et hivernal, avec des averses, du grésil, des coups de tonnerre. Et sur le nord, la Normandie, la région parisienne, la Bourgogne, le Massif Central et la vallée du Rhône, même jusqu'en Alsace, des chutes de neige à basse altitude. Attention, on attend même des chutes de neige en plaine, donc en ville, on pourrait voir les routes blanchir. Dans l'après-midi, sur le littoral méditerranéen, la Bretagne, le bassin parisien et la Nouvelle-Aquitaine, et bien dans toutes ces régions, le temps redeviendra sec dans l'après-midi et nous pourrons même voir quelques éclaircies. Les températures, elles sont hivernales, moins 2 à Embrun dans les Hautes-Alpes, 0 à Aurillac, 2 à Strasbourg, 3 à Paris. Et dans l'après-midi, nous aurons 4 à 9 degrés, c'est frais dans la moitié nord, 7 à 13 partout ailleurs.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy avec dans un instant l'interview politique.
Oui, d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Nathalie.
Votre invité ce soir.
Boris Vallaud, député des Landes et porte-parole du Parti Socialiste. Coronavirus, retraite, l'exécutif est sous pression. On en parle avec lui.
L'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, et c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont.
Avec votre invité ce soir dans ce studio, Boris Vallaud, député PS des Landes.
Bonsoir Boris Vallaud.
Bonsoir.
L'épidémie de coronavirus est aux portes de la France. Deux nouveaux cas confirmés ce soir dans notre pays. Le Premier ministre a écrit aujourd'hui au maire. Il se dit prêt à recevoir les chefs de parti. C'était une demande du Parti Socialiste. Est-ce que la gestion de crise mise en place par l'exécutif vous rassure ?
Oui, je veux le croire. On a en France une grande habitude de la gestion des crises sanitaires. On a des réseaux d'alerte qui sont déployés partout en France. On a aujourd'hui plus d'une centaine d'hôpitaux avec des SAMU qui sont activés. La possibilité d'y faire des tests, de confiner, de traiter rapidement. Je crois que ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il tienne les Françaises et les Français informés de l'évolution de la situation, qu'ils disent les moyens qui sont mobilisés et qu'ils rassurent et qu'ils communiquent. Et je comprends que les Français puissent être évidemment inquiets de cette épidémie, de cette pandémie, mais je crois qu'on doit faire confiance à nos autorités sanitaires qui sont parmi les meilleures du monde et qui prennent, je crois, à bras-le-corps la situation qui, en effet, est extrêmement préoccupante.
Vous êtes dans l'opposition, mais pas question pour vous, les socialistes, de demander, comme Marine Le Pen, une fermeture des frontières, ou comme Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, il y a quelques minutes sur Europe 1, au moins des contrôles renforcés à la frontière, notamment avec l'Italie.
Écoutez, nous, on demande que le gouvernement soit pleinement mobilisé, parfaitement transparent sur la situation. Je crois qu'il l'est jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, et il a en effet accepté le principe d'une rencontre avec les présidents de groupe et les chefs de parti pour que chacun puisse être instruit de ce qui est fait par le gouvernement dans la gestion de cette crise.
C'est important que dans ce type de situation sanitaire problématique, même si pour l'instant on ne sait pas dans quelle mesure ça peut s'étendre dans notre pays, la classe politique dans son ensemble fasse bloc pour ce genre de situation.
Écoutez, c'est pas un chèque en blanc, mais c'est un principe de responsabilité. Nous avons des autorités sanitaires, nous avons un gouvernement qui a la charge d'activer un certain nombre de plans et de dispositifs. Il doit la transparence et l'information aux Françaises et aux Français. Et notre rôle est d'être vigilant sur ces points-là. Mais nous ne sommes pas nous-mêmes autorités sanitaires. Moi, je ne suis pas capable de vous dire les façons dont il faudrait gérer cette crise. Mais en tout cas, évitons des polémiques, informons, rassurons les Français et montrons que partout en France, notre réseau de santé est mobilisé.
Pas de polémique et donc plutôt confiance dans le gouvernement, au moins jusqu'ici, sur la gestion du coronavirus. Parlons d'un autre sujet où peut-être vous faites moins confiance à l'exécutif Boris Vallaud, les retraites. Édouard Philippe laisse la porte ouverte au 49-3 pour faire passer la réforme. En quoi c'est un problème pour vous si on en arrive à ce 49-3 qui, je le rappelle pour les auditeurs, consiste à ce qu'il n'y ait pas de vote et que le texte puisse être adopté, donc en écourtant les débats?
Le problème, c'est d'abord la réforme telle qu'elle nous est proposée, telle qu'elle est présentée. Ce qui apparaît de façon de plus en plus éclatante dans le débat parlementaire, après la commission spéciale, maintenant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est que le gouvernement ne maîtrise pas sa réforme, que c'est une mauvaise réforme qui est essentiellement fondée sur des considérations financières. Il va falloir travailler plus longtemps avec un niveau de remplacement des pensions qui va baisser, c'est-à-dire que le niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs va baisser. Et c'est d'abord ça la difficulté. Et quand je dis que le gouvernement n'est pas prêt, c'est que si je me réfère à l'étude d'impact, qui est un document qui doit éclairer la représentation nationale sur les tenants et les aboutissants de la réforme, eh bien, celle-là est très partielle. Les quatre types dans lesquels les Français sont censés se reconnaître sont tronqués, pour ne pas dire truqués. Et puis la réforme elle-même laisse en blanc des éléments essentiels de la réforme. C'est les fameuses ordonnances et c'est les fameux décrets. 29 ordonnances, plus d'une centaine de décrets. Et donc, si le gouvernement devait dire, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir, nous écourtons le débat, ce serait évidemment un problème.
Votre problème principal, c'est plus le fond. Finalement, on n'entend qu'un éventuel 49-3. Si je me souviens bien, Boris Vallaud, entre 2014 et 2016, vous étiez secrétaire général adjoint de l'Élysée sous le quinquennat de François Hollande. Et à cette période, les socialistes avaient, sous le Premier ministre Manuel Valls, déclenché deux fois un 49-3 pour la loi Macron, puis pour la loi El Khomri, la loi Travail. C'est pas si grave que ça, un 49-3. Donc.
Il y a deux choses. D'abord, le 49-3, il peut être utilisé soit pour tenir sa majorité.
Ce qui ne serait pas le cas là.
Une majorité qui est incertaine du point de vue de sa cohésion, du point de vue de la confiance et du soutien qu'elle apporte au gouvernement. C'est les conditions dans lesquelles on utilise dans les circonstances que vous évoquez le 49-3. Et puis, il y a cette façon de faire qu'envisage le gouvernement qui consiste essentiellement à escamoter le débat et à couper le micro à ceux qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. Et puis par ailleurs, je voudrais dire que ça se situe dans un contexte particulier. Moi, ma réflexion qui est la mienne aujourd'hui, c'est une réflexion qui inclut une réflexion sur le 49-3, c'est comment on a une démocratie vivante, efficace, qui restaure la confiance des Français dans leurs dirigeants. Et aujourd'hui, nous sommes pris en étau entre une Ve République qui est pathologiquement défavorable à la concertation, au débat, à la capacité à fabriquer de grands compromis républicains, dont dans l'histoire nous avons été capables, et puis une pratique de l'exécutif qui, depuis 2 ans et demi, a consisté essentiellement à écraser les corps intermédiaires, les partenaires sociaux comme les parlementaires. Donc je crois que dans le moment de réflexion que nous devons avoir sur cette réforme qui va concerner des millions et des millions de Français,
et tous les Français
pendant des décennies, pour des montants voyez, c'est 325 milliards d'euros, les retraites. Eh bien, je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie d'un débat de fond. Il y a eu 2 ans et demi de travail préparatoire du gouvernement. On ne peut pas nous laisser 3 semaines.
Vous parlez des pratiques de l'exécutif, du débat, mais qu'est-ce que vous pensez de l'obstruction qui est assumée, revendiquée par vos camarades communistes et insoumis? Les socialistes, d'ailleurs, n'ont pas déposé une pluie d'amendements comme les insoumis et les communistes. Qu'est-ce que vous, quand vous voyez ces débats où on fait des amendements pour changer un mot, le remplacer par un synonyme, qu'est-ce que vous vous dites?
D'abord, moi, j'ai un grand respect pour le droit d'amendement, qui est un droit constitutionnel. Et donc, dès lors, la stratégie qu'ont choisi certains groupes, j'en prends acte, même si ça n'a pas été la nôtre, et vous avez raison de le dire, nous avons déposé 700 amendements, ce qui, sur un texte comme ça, est tout à fait raisonnable. Le rythme d'examen des amendements, d'ailleurs, est habituel. C'est-à-dire qu'on passe entre 50 et 80 amendements à l'heure. Chaque amendement est l'occasion d'un débat au fond. Nous avons évoqué la question...
Même ces amendements-là, depuis plus de 8 jours,
parce que même quand ce ne sont pas les nôtres, nous parlons du taux de remplacement, du niveau de vie des retraités, du minimum de retraite. Nous parlons des retraites agricoles, des retraites des orthophonistes, nous parlons des avocats, nous parlons de l'Opéra de Paris, nous parlons de la situation des femmes. Et nous soulevons un certain nombre de contradictions, de difficultés, de zones d'ombre de ce projet. Évidemment, on pose beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup de réponses. Mais vous voyez, c'est pour ça que je veux dire que la première des obstructions, elle est dans une étude d'impact qui est incomplète, comme je l'ai dit. Elle est dans le choix par le gouvernement d'une procédure accélérée, c'est-à-dire qu'il ne nous laisse pas le temps. Dans d'autres, dans d'autres grandes démocraties, d'évidence, on aurait beaucoup plus de temps pour travailler. Et puis, quand on regarde dans l'histoire, on a eu des moments, vous savez, entre le rapport sur l'école de Jules Ferry en 1870 et la loi en 1882, il se passe 12 ans. L'amendement Vallon qui fait l'élection du président de la République en 1875 au suffrage universel, ce seul amendement, qui est évidemment un amendement d'importance, c'est presque 4 heures de débat.
Un tout dernier mot, Boris Vallot. Vous évoquez cette fameuse étude d'impact associée à la réforme des retraites. Vous avez demandé au Parti Socialiste une commission d'enquête parlementaire. Elle en est où, cette commission d'enquête?
Eh bien, voilà, nous en avons saisi le président de l'Assemblée nationale il y a 15 jours. Il a saisi la garde des Sceaux qui nous a enfin répondu ce matin. J'ai eu des échanges avec la présidente de la Commission des affaires sociales. Elle me dit que nous pourrions l'installer dans le courant de la semaine prochaine. Je crois qu'on a besoin de faire la lumière sur la réalité des intentions du gouvernement et on n'est pas capable de le faire à travers l'étude d'impact.
Et donc, cette commission d'enquête verra bien le jour. Vous l'espérez. Merci beaucoup, Boris Vallot, d'avoir été mon invité.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy. Restez avec nous à 19h30, la désinvolture dans ce studio. Un petit prodige du cinéma français avec nous. Vous l'avez connu dans Les Beaux Gosses, il a fait du chemin depuis Vincent Lacoste. Cartonne partout, il est demandé par tous les réalisateurs et il est mon invité jusqu'à 20h pour nous parler de son nouveau film, Mes Jours de Gloire. Une histoire drôle et touchante qui lui colle parfaitement à la peau.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et tous les jours avant 19h30, Europe 1 prend un temps d'avance, on écoute le monde changer et on s'intéresse à ce qui va se passer demain, Nathalie Lévy.
Oui, demain en France, pour commencer avec vous, Théophile Cossa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Dans 3 jours, rendez-vous à Paris, salle Pleyel pour la cérémonie des Césars, événement qui s'annonce d'ores et déjà perturbé par les polémiques qui agitent en ce moment le cinéma français, notamment le cas Roman Polanski. Justement Théophile, pour tenter de calmer le jeu, l'Académie doit désigner demain son nouveau président par intérim.
Oui, c'est Dominique Boutonnat, le président du CNC, le Centre National du Cinéma, qui l'a annoncé hier soir lors du traditionnel dîner des producteurs. Le CNC missionné pour temporiser la situation, vous savez, après cette démission collective de la direction de l'Académie des Césars, c'était le 13 février. Un conseil d'administration exceptionnel aura donc lieu demain matin. Objectif, trouver un nouveau président par intérim pour remplacer Alain Tarzian, en poste depuis 2003 et à qui on a beaucoup reproché son manque de transparence.
Et le timing, Théophile, est très très serré. Hein.
Oui, vous l'avez dit, Nathalie, la cérémonie des Césars aura lieu vendredi soir. L'enjeu maintenant, c'est d'apaiser coûte que coûte les tensions. Exit Alain Tarzian, il ne présidera pas cette 45e cérémonie, ne fera pas de discours et ne siégera pas au premier rang comme le veut le protocole. L'idée, c'est, vous l'avez compris, d'éviter que toute la famille du cinéma français ne s'écharpe en direct à la télévision. Reste maintenant à trouver le bon candidat qui pourrait être bien une candidate. Ouais. Parmi les noms qui circulent, celui de la réalisatrice Danielle Thompson, vice-présidente de l'Académie des Césars, ou encore Toni Marshall, seule femme ayant reçu le César du meilleur film, c'était en 2000 pour Vénus Beauté Institute.
Ah oui, absolument. Cela devrait être d'ailleurs la première étape d'une réforme en profondeur de l'Académie.
Oui, réclamée par de très nombreuses personnalités du cinéma. Une assemblée générale extraordinaire devrait donc être convoquée dans les 6 semaines pour réformer les statuts de l'Académie et la rendre à l'image du cinéma et de la société d'aujourd'hui, selon les mots du président du CNC. Premier chantier, instaurer une parité hommes-femmes au sein de l'Académie, les femmes étant largement sous-représentées. Reste à voir si ces annonces de dernière minute réussiront à calmer les tensions vendredi. D'ici là, la maîtresse de cérémonie Florence Foresti a tout simplement annulé toutes ses interviews et prépare le show dans le plus grand secret, un show qui ne manquera certainement pas de piquant.
Oui, on va d'ailleurs poser la question tout à l'heure à notre invité. Vincent Lacoste, il va s'installer dans ce studio juste après vous. Et lui, il avait signé cette pétition justement pour faire évoluer la gouvernance des Césars. Merci à vous Théophile. Demain dans le monde, avec vous Didier François, bonsoir.
Bonsoir.
Encore l'épidémie de coronavirus dont on parle parce que nouveau foyer, la République islamique d'Iran, désormais le pays le plus touché par la maladie après la Chine, n'est-ce pas ?
Oui, alors avec une contagion extrêmement symbolique. Celle du vice-ministre de la Santé. Testé positif, aujourd'hui, il a rendu public son infection dans une vidéo qu'il a tournée lui-même sur son téléphone portable et qu'il a postée sur les réseaux sociaux depuis son appartement où il est désormais isolé en quarantaine. Seulement, la veille, il avait donné une conférence de presse à son ministère à Téhéran pour tenter de minimiser l'ampleur de l'épidémie qui touche l'Iran devant des journalistes finalement assez dubitatifs et plutôt inquiets à la vue de son état de santé. Parce que pendant tout son discours, figurez-vous que le vice-ministre était visiblement très fiévreux, le regard embué, s'épongeant le front avec un mouchoir, pris de tremblements et secoué de quinte de toux, ce qui était totalement contradictoire avec ses propos qu'il voulait tout à fait rassurants sur les capacités des autorités iraniennes à maîtriser la propagation du virus.
D'autant que ces autorités n'ont toujours pas trouvé ou révélé les origines donc de ce nouveau foyer d'infection.
Oui, et en plus, une délégation de l'Organisation mondiale de la santé, qui était attendue aujourd'hui à Téhéran pour enquêter, a dû reporter son voyage sans qu'aucune raison ne soit donnée. Alors, ce qu'on sait à ce stade, c'est que 99 personnes ont officiellement été diagnostiquées positives au cours des 5 derniers jours. 15 malades auraient perdu la vie. On sait également que l'épidémie s'est déclarée à Homs, qui est la ville sainte du chiisme, et un lieu de pèlerinage où passent chaque jour des milliers de fidèles venus de toute la région. Le risque est donc élevé que la propagation soit bien plus importante que ce qui a été annoncé, au point que tous les pays voisins, alors Irak, Turquie, les monarchies du Golfe, ont fermé leurs frontières terrestres et suspendu leur liaison aérienne avec l'Iran.
Ouais, et puis vous parliez de non-révélation pour l'instant, pas d'informations. Les États-Unis en appellent aujourd'hui à l'Iran et leur demandent de dire la vérité au sujet du coronavirus. Demain dans nos vies, avec vous Thierry Dagiral, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
C'est encore la saison du ski, mais sur les pistes, on file à Val Thorens.
Ce serait tellement bien si c'était vrai. La station des Trois-Vallées qui a misé sur la sécurité, il y a beaucoup de monde, ce sont 3000 skieurs qui se blessent chaque année. La station espère faire baisser ce chiffre. D'abord, elle possède 14 caméras qui comptent les skieurs, qui fluidifient le trafic en temps réel, grâce à des panneaux situés au départ des descentes. La nuit, eh bien, grâce à un logiciel, les dameuses récoltent des informations sur l'épaisseur de la couche de neige et cela permet ainsi de mieux préparer les pistes.
Il y a même un drone maintenant.
Exactement. Si vous êtes en vacances dans la station en ce moment, vous l'avez peut-être déjà repéré, un drone dernière génération équipé de 2 caméras ultra sophistiquées afin de trouver d'éventuelles victimes. La caméra thermique peut détecter la chaleur d'un corps enseveli par exemple. Les secours peuvent donc être déclenchés plus rapidement. Et puis une caméra zoom permet pour sa part de reconnaître le visage d'une personne à 3 km de distance. Et enfin, ce drone est également équipé de haut-parleurs pour s'adresser directement aux personnes qui se mettent en danger.
Ah bah disons que le ski en toute sécurité, donc
c'est la
le confort
du
absolu.
Futur déjà, Val Thorens.
Ouais, bah ce sera vraiment du futur quand tu n'auras plus la queue au télésiège. Merci beaucoup.
Oh là, on sent le vécu.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nathalie Lévy. Le rappel des titres de Sébastien Krebs. Et juste après, c'est Vincent Lacoste qui nous rejoint dans ce studio. Vous savez qui c'est Vincent Lacoste ?
Évidemment.
C'est le nouveau petit prodige du cinéma français, sa désinvolture qu'on aime tant. Et son nouveau film, Mes jours de gloire, en salle demain.
Et vous pouvez lui parler à Vincent Lacoste au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy. Le rappel des titres signé Sébastien Krebs.
Deux nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués en France. Une jeune femme chinoise revenue de Chine il y a presque 3 semaines. Elle est hospitalisée à Paris pour surveillance, mais va très bien, précise le ministère de la Santé. Le deuxième cas est un homme français qui a séjourné en Lombardie, en Italie, et qui est hospitalisé en Rhône-Alpes, Auvergne. Ce soir, les ministres de la Santé de plusieurs pays européens ont décidé à Rome de ne pas fermer les frontières. Ce serait disproportionné et inefficace, estime le français Olivier Véran. De même que des événements publics ne seront pas annulés, notamment le match de foot prévu à Lyon demain contre la Juventus Turin. Dans l'actualité aussi ce soir, Édouard Philippe laisse la porte ouverte à l'utilisation du 49-3 pour faire adopter sans vote la réforme à l'Assemblée, alors que les débats piétinent toujours. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, dit-il, je le fais sans hésiter. L'inquiétude pour la Française Farida Adelka, cette chercheuse emprisonnée en Iran. Elle a été hospitalisée après une grave détérioration de son état de santé. Et puis l'Académie des Césars désignera demain un président par intérim qui assistera à la cérémonie vendredi en remplacement d'Alain Terzian qui a démissionné en pleine crise.
Merci beaucoup Sébastien. L'info revient demain avec vous dans ce studio, 18h. Anissa, ça sent l'hiver demain.
Oui, c'est une journée très hivernale, effectivement, Nathalie, avec des températures qui baissent. Et puis à partir de cette nuit, sur quasiment toute la France, des averses, des rafales de vent. C'est une perturbation très active qui est en train de traverser le pays. Demain, dès le début de la journée, sur la région parisienne, la Bourgogne, le Nivernais, le Massif central, la vallée du Rhône, il va neiger à basse altitude, 500 mètres sur les reliefs et peut-être même en plaine. Donc dans certaines villes, on devrait voir quelques routes blanchir. Dans l'après-midi, eh bien, ce sont des averses qui vont se généraliser sur tout le pays. Il y a quelques régions qui s'en sortent bien, comme la Bretagne, le bassin parisien, le centre-val de Loire, avec un temps qui redevient sec sur ces régions, avec même quelques éclaircies. Il fait froid, 2 à 7 degrés sur la façade ouest de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées demain matin, et 7 à 11 sur le reste du pays.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et avec votre invitée Nathalie. On parle culture tous les jours avant 20h, et ce soir c'est cinéma, et pas avec n'importe qui. Vous recevez un comédien très en vogue en ce moment.
Et oui, Vincent Lacoste est avec nous jusqu'à 20h. Bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes en pleine promo, vous vous avez fait escale chez nous. On est ravis de vous avoir parce que le film sort demain. Mes jours de gloire d'Antoine Barry, hein, c'est ça. Quatrième collaboration avec lui.
Non, on a fait un court-métrage qu'il a réalisé, ce film-là, et sinon il a joué dans les films de Félix Monati aussi.
Mais vous connaissez bien.
On se connaît très bien, depuis longtemps. Voilà.
Alors racontez-nous un petit peu ce que c'est que ce film demain, dans lequel vous partagez l'affiche avec Emmanuel DeVos et Christophe Lambert.
C'est un film sur l'histoire d'Adrien, qui est un ex-enfant star, et qui n'a absolument plus aucun succès, qui a eu un succès quand il avait 10 ans avec un film qui s'appelle Le Petit Bidule, et qui essaie de se relancer dans le monde du cinéma. En passant des castings pour le biopic du général de Gaulle.
C'est un peu l'anti-vous quand même, Vincent Lacoste. C'est un peu l'anti-vous parce que vous, depuis... Non, ce héros, Adrien. Parce que vous, depuis 2007, vous avez tourné dans près de 25 films. Vous êtes le comédien avec cette désinvolture qui plaît tellement, qui cartonne. Tout le monde vous veut. Hein. Non, mais c'est vrai.
Oui, je suis très content.
Vous êtes, vous êtes un boulimique de travail ?
Oh non, je suis pas un boulimique de travail. Là, par exemple, j'ai arrêté de tourner en octobre et je ne sais même pas quand est-ce que je vais retourner la prochaine fois. Donc, vous voyez, c'est pas mon choix. C'est qu'il y a, on me propose pas trop de films en ce moment qui m'intéressent. Donc voilà quoi.
Parce que ça veut dire
ça dépend des films qu'on me propose. Hein, si ouais. Je tourne beaucoup ou pas quoi.
Ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez vraiment le choix. Donc Vincent Lacoste, aujourd'hui,
j'ai la chance d'avoir des ou en tout cas. J'ai la chance qu'on me propose des films qui me plaisent, quoi, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde.
Vous refusez beaucoup de choses ou pas ?
Oui, je refuse pas mal de choses, ouais. Ouais, bah ça, on peut pas tout faire, de toute façon. Hein.
Bien sûr, il y a une question de timing et puis aussi une question de goût. Si vous n'aviez pas réussi en tant qu'acteur comme Adrien dans le film, vous auriez fait quoi, vous, Vincent Lacoste ? Parce que vous êtes très jeune.
Je sais pas vraiment, là. Ouais, j'ai 26 ans, mais je sais pas ce que. Très honnêtement, je sais absolument pas. J'aurais certainement continué des études. Mais sinon, voilà. Maintenant, je commence à avoir des passions. Je pense que j'aurais été critique culinaire.
Critique culinaire,
bah, j'aime bien manger. Ouais.
C'est assez quand même inattendu. Est-ce que nos jours de gloire, donc avec Emmanuel DeVos et Christophe Lambert, comment on joue avec ces deux grands comédiens ? Vous les aviez déjà côtoyés ?
Emmanuel DeVos, on avait tourné ensemble dans Les Beaux Gosses. Et Christophe Lambert, non, je ne le connaissais pas.
Bah, on va parler des Beaux Gosses.
À vrai dire, c'est très simple de tourner avec eux. Quoi, parce que quand quelqu'un est très expérimenté et il joue très bien, ils sont à l'écoute. Donc en fait, ça simplifie vachement les choses. Quoi.
Parlons des Beaux Gosses, parce qu'effectivement, vous avez été révélé, vous aviez 16 ans dans ce film de Riyad Sattouf.
Même à moins, 14 ans j'avais.
14 ans, c'était en 2007, hein, c'est ça ?
2009. Ah
bah, 2009, moi, décidément.
2007, j'avais 12 ans.
Est-ce que là, du coup, Nos jours de gloire, c'est le film de la maturité ?
Oh, je ne sais pas si c'est le film de la maturité, parce que c'est un personnage vraiment extrêmement immature, pour le coup. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce film.
Ça fait plus de 10 ans, quoi.
Ça fait plus de 10 ans, bien sûr, ça fait longtemps. Non, mais en tout cas, c'est un film dont je me sens proche et que j'aime beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'il évoque un peu des problèmes que beaucoup de gens peuvent avoir aujourd'hui, c'est-à-dire... ne ressentir une espèce de pression à entrer dans la vie active, à choisir ce qu'ils veulent faire, et voilà quoi. Et
du coup, si on revient au Beau Gosse, vous aviez dit, enfin il me semble, hein, vous allez me dire si je me trompe, vous aviez pas très bien vécu ce succès, vous n'osiez plus draguer les filles, etc. Ça va mieux maintenant ?
Je n'osais plus draguer les filles, c'est pas ça, c'est que. c'est qu'en fait, je me suis retrouvé à avoir fait les beaux gosses, j'avais 15 ans, et ensuite, quand il s'est agi de sortir avec une fille, le problème, c'est que tout le monde pensait que j'étais Hervé dans les beaux gosses, quoi. Ouais. J'étais identifié comme ça, donc forcément, ça m'avait rendu un peu timide, mais enfin. Ça n'a pas duré longtemps, tout va bien quand même.
Donc ça a considérablement changé. Quand on vous compare...
ça, j'ai pas dit que ça a considérablement changé, mais...
Bah, c'est un peu ce
mais
que vous
c'est surtout... quand on...
Non mais quand on vous compare, parce qu'on vous compare, hein, et c'est pas moi qui le dis, à Pierre Ninet, entre autres. Par exemple, regardez, dans M le magazine, il cache les frontières, réunissant tout à la fois le classicisme d'un Pierre Ninet, la farce d'un Max Boubli, le charme sombre d'un Louis Garrel. Il a quelque chose de Jean-Pierre Léo, qui garde de son côté garçon tout en jouant des rôles d'homme, dit de lui la réalisatrice Justine Trier. Écoutez, je sais pas, vous avez coché toutes les cases.
Ah ben ça fait plaisir, attendez, ça fait hyper plaisir.
Vous reconnaissez là-dedans? Vous êtes
oh,
un
peu... Je me reconnais, bien sûr, non mais c'est très gentil surtout, après je me reconnais là-dedans, oui.
La génération Pierre Ninet, Max Boubli, Louis Garrel, etc.
C'est... Ah ben c'est... bien sûr, enfin je suis un peu plus jeune mais...
Ouais, un peu plus jeune, c'est vrai. Mais
qui veut absolument paraître très jeune. On n'a pas beaucoup d'écart, mais non, c'est des acteurs que j'aime beaucoup.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
Bien sûr, non mais ça me fait plaisir tous ces compliments de toute façon. De toute façon, dès qu'un compliment... vient de quelque part, de quelqu'un, ça fait toujours plaisir, ça c'est sûr.
Vous vous sentez plus proche d'un Pierre Ninet ou d'un Max Boublil? C'est pas les mêmes univers.
C'est pas les mêmes univers. C'est sûr. Oui, mais entre les deux, quoi, en fait, c'est ça qui est, ouais, c'est ça qui est plaisant. Moi, c'est ça. Non, mais c'est pas que je me mouille pas, c'est que c'est moi j'aime bien faire de la comédie comme des films plus dramatiques et voilà quoi. Donc c'est justement cette dualité là que j'aime bien quoi.
On va se retrouver dans un instant, Pierre Ninet, on va parler des Césars.
Non, parce que... c'est Vincent Lacoste.
Vincent Lacoste, pardonnez-moi. On se retrouve dans un instant, Vincent Lacoste. On va parler des Césars parce que ça approche à grands
bien
pas,
sûr,
entre
sûr.
Autres, hein, bien sûr.
Et si vous aussi, vous voulez poser vos questions à Vincent Lacoste, ça se passe au 39-21. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec ce soir une page cinéma que l'on découvre ensemble grâce à votre invité. C'est un film qui est à l'honneur et son acteur principal est là. Jusqu'à 20h, vous recevez Vincent Lacoste, Nathalie.
Oui, demain dans les salles avec Mes jours de gloire d'Antoine Debary. On en parle bien sûr avec Mathieu Charrier aussi qui vient de nous rejoindre. Salut Mathieu.
Bonjour à tous.
Les films à ne pas louper demain soir, on en parle dans un petit instant. On a Mouna qui nous appelle de Paris ce soir et qui voudrait vous poser une question, Vincent Lacoste. Bonsoir.
Bien
Mouna.
Sûr.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y.
Alors, n'avez-vous pas peur de vous enfermer dans ce registre d'ado attardé, nonchalant, ou est-ce qu'au contraire, vous cherchez à imposer encore longtemps ce style de jeu qui vous caractérise ?
Non, mais j'essaie de faire des choses un peu différentes, ça c'est sûr. Mais bon, après, j'ai fait que des films d'époque. Bon, donc bon, j'aime bien faire les deux, en fait, quoi. Parce que j'avais fait plutôt des drames dernièrement, quoi. Donc là, je retourne un peu à un personnage, oui, qui pourrait être, en tout cas... dans un comment dire dans une famille de personnages que j'ai déjà fait ouais c'est-à-dire c'est... des personnages un peu loser quoi en tout cas
en tout cas nonchalant
nonchalant, non, c'est ça, hein. C'est ça
non mais c'est vrai qu'en plus vous êtes allé dans différents univers, il y a eu le milieu médical avec Hippocrate, première année de Thomas Lutli, la finance aussi.
Oui, j'avais fait.
Tout de suite maintenant, de Pascal Bonitzer. Il y a quand même des univers très différents avec, c'est vrai, quand même cette marque. Mais finalement, est-ce que vous jouez vraiment un rôle, Vincent Lacoste, quand vous êtes comme ça, dans cette nonchalance, dans ce côté
mystère.
Non, mais il y a énormément de vous, on va pas se mentir.
Oui, en tout cas, je sais plus qui c'est qui disait que un personnage, de toute façon, c'est toujours le milieu entre la personne qu'il incarne et le personnage, quoi. Donc, forcément, si je fais un rôle, c'est pas pareil que si quelqu'un d'autre fait un rôle. Et j'apporte forcément un peu de moi, mon physique.
Ouais. Il est d'un naturel confondant, hein, dites de vous, Antoine Debary, encore une fois. On le voit, on l'entend, on le reconnaît, effectivement, il n'y a pas d'écran entre lui et nous. Ce soir, Vincent Lacoste, dites-moi, vous avez été nominé 4 fois au César.
Exactement, 4 fois.
Bon, vous
quatre
êtes reparti bredouille à chaque fois, voilà, on va le dire.
Ça viendra plus tard avec un rôle plus loin pour vous, peut-être.
Non, mais attendez, le je m'en foutis, je veux bien, la désavolture, je veux bien, mais quand même si ça fait sourire, ça vous impacte ou pas? Ça a de l'importance ou pas à vos yeux?
Très sincèrement, non, ça me fait plaisir d'être nommé. Mm-hmm. Ça me ferait plaisir d'en avoir un. Si j'en ai pas, très honnêtement, ça
vous empêche pas de faire carrière, on le voit, vous êtes extrêmement sollicité.
Non, mais je... Oui, voilà, c'est ça. En fait, la chose problématique, c'est il faudrait que si j'avais pas de travail, quoi. Là, j'ai du travail. Bon, si j'ai pas de César, c'est pas bien grave. Hein. Je m'en remettrai, quoi.
La cérémonie des
Césars.
Il y a
plein de gens qui sont géniaux qui n'ont jamais eu de César.
Tout à fait. La cérémonie
Jean-Pierre Léo, il a jamais eu de César.
Et oui, et comme on vous compare à lui, notamment, donc tout va bien. Vous pouvez continuer à tourner tranquille. Les Césars, c'est vendredi. Vendredi, là, avec, on le sait, sans doute, une 45e édition qui sera très agitée.
Polémique.
Il y a évidemment le film J'accuse de Polanski, qui est nommé 12 fois, on va y venir dans un petit instant. Et puis, il y a cette pétition qui a été signée notamment par vous, pour plus de transparence et de parité, qui a conduit à une démission de la direction des Césars, Alain Tersian en tête, avec une présidence par intérim, sans doute à partir de demain. Pourquoi vous l'avez signée, vous, cette pétition ?
Bah, tout simplement pour qu'il y ait plus de parité, de transparence dans le conseil d'administration. Parce qu'en fait, il y avait donc, pour expliquer, 47 personnes dans ce conseil d'administration et qui étaient élues à vie par on ne sait qui, en fait. Et personne ne savait vraiment. Enfin, il n'y a aucun accès à quoi que ce soit, normalement.
Trop opaque,
les gens. Oui, c'est ça. Les gens, normalement, les membres de l'académie, comme moi, sont censés pouvoir élire un conseil d'administration, ça paraît normal et démocratique, quoi. Donc voilà, la pétition disait principalement ça, en fait, quoi.
Donc vous souhaitez quoi aujourd'hui ? Vous voulez donc plus de parité, vous
plus
l'avez
de
dit.
Parité, plus de transparence.
Il y a un responsable en particulier ? Vous pointez à l'interdiant, par exemple ?
Non. L'idée, c'était absolument pas de couper des têtes. Hein. Mmh. Attention, la pétition demandait absolument pas la démission de qui que ce soit. Mais par ailleurs, cette démission, en l'occurrence, prouve bien que tout le monde va dans le même sens, donc c'est plutôt positif.
Donc c'est bien que tout le monde ait démissionné ?
Oui, je pense.
À l'avant-veille, comme ça, de la cérémonie ?
Bah oui, je pense que c'est pas négatif, en tout cas, oui, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, ça va dans le sens de, on sait pas qui va être élu, mais c'est plus démocratique, en effet, quoi.
Bon, 45e cérémonie des Césars avec aussi J'accuse de Polanski, nommé 12 fois. Vous avez peut-être repéré, quand même, parce que Adèle Haenel, on l'entend partout et vous l'avez peut-être déjà côtoyé, la comédienne.
Bien sûr.
Récompenser Polanski, c'est cracher au visage des victimes, dit-elle, en amont de la cérémonie. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Est-ce que vous avez vu le film, déjà, J'accuse ?
Ouais, bien sûr, j'ai vu le film, j'ai vu dans le coffret César. Bah, c'est vrai que, bon, c'est pas très moderne, en effet, c'est un peu insultant, en effet, vu tout ce qui s'est passé, que J'accuse soit nommé 12 fois en même temps. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi, je pense que la pétition naît de ça aussi, c'est qu'à un moment donné, bon, si les gens ne se retrouvent plus dans les votes, dans toutes les nominations qui sont faites, voilà, c'est le moment de changer les choses, quoi, après.
Mais du coup, vous avez vu le film, vous avez aimé. Est-ce qu'il mérite quand même ?
J'ai pas dit que j'avais aimé, j'ai dit que j'avais vu.
Non, j'ai pas dit que vous aviez aimé. Je vous posais la question. Est-ce que vous avez aimé puisque vous l'avez vu ? Et si vous avez aimé, est-ce qu'il mérite une statuette ?
Ah, ça j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas voté pour. Non, mais
vous n'avez pas voté pour vous.
Mais le film, au-delà du film, le film est bon. Mais le problème, moi, je pense que le film est bon. Après, si ça a blessé autant de personnes. Ce qui n'est pas logique, c'est que le film soit nommé autant de fois, ça c'est sûr.
Mathieu Charrier ?
Non mais la boucle est bouclée, c'est ça le problème. Et c'est ça qui prouve que l'Académie aujourd'hui n'est plus représentative de la société d'aujourd'hui et de ceux qui la composent. C'est que le film se retrouve nommé 12 fois. C'est pour ça qu'il fallait remettre tout ça à plat. C'est-à-dire que c'est pas un problème d'est-ce que c'est un bon film, est-ce que c'est un mauvais film, est-ce que c'est...
Voilà, le problème n'est pas là en fait.
Bah, la question c'est quand même, est-ce que c'est un bon film aussi ?
C'est ça un bon film même...
voilà.
Bien sûr. Non mais après, oui, c'est vrai qu'en l'occurrence... Bon,
c'est le nombre de nominations.
Après, il ne faut pas oublier aussi que dans les nominations, il y a des nominations pour les meilleurs
costumes, etc. Voilà.
J'ai trouvé qu'il y avait des meilleurs films surtout, moi, mais... Voilà.
On se reparle dans un instant de votre avenir, de votre avenir, de vos rôles, et puis les cinémas, les films en salle demain avec Mathieu Charrier.
Vincent Lacoste est l'invité de Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. On parle cinéma en ce mardi soir avec Vincent Lacoste qui est à l'affiche d'un nouveau film à voir dès demain en salle. Mais il n'y a pas que ce film à voir, il y en a plein d'autres qu'a vu Mathieu Charrier, Nathalie.
Mais oui, alors déjà quand même, on va citer le titre du film de Vincent Lacoste, c'est Mes jours de gloire d'Antoine de Barry avec Emmanuel De Vos et Christophe Lambert qui joue votre père hein,
exactement,
en pleine forme.
Père,
hein, et voilà.
Il boit du Bloody Mary toute la journée, il est en peignoir. Voilà.
Mathieu Charrier, vous allez nous parler de Judy pour commencer ?
Ben oui. Film européen sur la grande
Judy Garland.
On se met dans l'ambiance.
Somewhere over the rainbow, way up high.
Il faut savoir que c'est Renée Zellweger qui chante. Elle s'est entraînée pour chanter comme Judy Garland. Alors, le long métrage se concentre sur une période bien précise de la carrière de la chanteuse, à la fin des années 60, lorsque Judy, qui est complètement ruinée, qu'elle tourne aux antidépresseurs, à l'alcool, insomniaque, elle doit abandonner ses enfants pour aller donner 30 concerts à guichets fermés à Londres, sauf qu'elle n'a plus vraiment la force de les assurer. Elle, qui, vous le savez, depuis l'âge de 16 ans, est sous contrat avec la MGM, depuis qu'ils l'ont fait tourner dans Le Magicien d'Oz, bien d'ailleurs que la jugeant trop ronde. Il faut savoir qu'il y a un régime qui lui a été imposé toute sa vie. Toute sa vie, elle a pris des amphétamines pour réguler son alimentation. Ça a été une vie qu'elle n'a jamais vraiment contrôlée. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce film. Le fait de se concentrer d'ailleurs sur la fin de ces années 60, ça permet aussi de tomber, d'éviter dans l'écueil du biopic classique, parfois un petit peu barbant, mais de raconter quand même tout le contexte. Et puis effectivement, on le disait, une interprétation absolument magistrale de Renée Zellweger, éternelle Bridget Jones, ce qui lui a d'ailleurs valu l'Oscar de la meilleure actrice. Écoutez-la.
Je ne me rappelle pas d'un seul moment de ma vie où je n'avais pas Judy Garland dans un coin de ma tête. Je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, elle chantait chaque année à la télévision et c'était bien avant le replay. Si vous la loupiez, eh bien tant pis, il fallait attendre l'année suivante. J'ai travaillé le chant pendant un an avant le début du tournage du film pour coller le plus possible à Judy. J'ai chanté un paquet de fois dans ma voiture bloquée dans les embouteillages de Los Angeles.
Voilà, Renée Zellweger qui a épluché toutes les interviews, métamorphosé les vidéos, elle a tout regardé, tout ce qui touchait de près ou de loin de Judy Garland pour préparer ce rôle. Ses concerts londoniens, il faut savoir qu'ils vont l'achever. Hein, 6 ans après, Judy va mourir, elle aura seulement 47 ans. Évidemment, en sortant de la salle, vous n'avez qu'une envie, c'est de revoir Le Magicien d'Oz, de réécouter Judy Garland, de chanter. C'est vraiment un film familial, vous pouvez y aller en famille. Et c'est aussi un film qui permet de comprendre une partie de notre patrimoine artistique mondial. Ça s'appelle Judy, tout simplement.
C'est vraiment une nouvelle vie hein, pour Renée Zellweger. Ouais. Hein. Franchement, à 47 ans, bien joué. Deuxième film très attendu cette semaine, c'est Darkwater, signé Todd Haynes.
Film d'utilité publique, puisque le réalisateur y raconte l'histoire vraie hein, d'un avocat américain qui va se battre contre une société de produits chimiques installée juste à côté du domicile de sa maman. Alors cet homme, il s'appelle Robert Bilott et il s'attaque à Dupont, c'est le nom de l'entreprise, spécialisée, vous savez, dans la production de téflon qui aurait pollué les sols et nappes phréatiques et causé la mort de milliers de personnes. Alors le téflon, on en a toujours aujourd'hui au fond
de certaines de nos poêles,
nos casseroles, c'est ce qui évite que ça colle. Et donc ce film, c'est un très très bon thriller judiciaire. L'avocat est joué par Mark Ruffalo. Et il doit se battre, vous savez, avec ses petits moyens contre une firme qui dépense véritablement des dizaines de millions de dollars pour sa défense. C'est vrai qu'en sortant de la salle, on est un peu révolté, on a envie de reprendre des études d'avocat, d'aller défendre la veuve et l'orphelin. Et surtout, évidemment, de changer toutes vos poêles, toutes vos casseroles, parce que vraiment, le film, à la fin, il y a des panneaux qui expliquent que la toxicité est prouvée, mais que pour des enjeux économiques, ben, on les a toujours dans nos magasins, dans nos supermarchés. Exactement. C'est rare d'avoir ça en sortant d'un cinéma. Donc voilà, ça s'appelle Darkwater, c'est signé du grand Todd Haynes.
Et puis on continue avec les comédies françaises de la semaine.
Pas mal cette semaine.
Mine de rien,
ça se déroule dans une petite ville du nord de la France, un ancien bassin minier. Les habitants tiennent à ce que leur mine reste debout, alors que la mairie, elle veut la démanteler. Ils y sont évidemment très attachés. Ils sont notamment joués par les formidables Philippe Rebaud et Arnaud Ducré. Et ils vont avoir l'idée de créer dans cette mine une sorte de parc d'attractions. Oui. Alors, très artisanal, hein, y a des caddies transformés en auto-tamponneuse, le train de la mine de l'époque qui se transforme en train fantôme. Voilà, c'est toute la trame de fond du film qui raconte aussi, bien sûr, la vie, la hargne et la solidarité de ces populations malgré la pauvreté. C'est une sorte de fable parce que l'histoire, elle est évidemment peu crédible, mais on y plonge avec délice. Écoutez Arnaud Ducré.
Je ne connaissais pas grand-chose des mines de charbon. Tout est très grand, tout est très. Tout est dur, toute la tôle, tout ça. Ce sont des grosses machines de guerre, quoi. Tu te dis, les mecs bossaient là, quoi. On l'entend dans le film, le mineur est très attaché à sa mine, il la porte dans son cœur et c'est vrai parce qu'on bossait avec des anciens mineurs ou des fils de mineurs et tu sens que c'est un truc générationnel mais que c'est une importance extrême quoi, pour eux, c'est dans leur cœur, ça fait partie, c'est leur deuxième femme quoi.
Voilà, c'est un peu ce genre de film, vous savez, dans la veine de Discount, des Invisibles, c'est comédie sociétale avec des moments drôles, des moments un peu plus complexes. Faut savoir que le film a quand même reçu le prix du public au dernier festival de comédie de l'Alpe d'Huez.
Donc une comédie qui fait passer des vrais messages. Ouais. Une autre présentée aussi à l'Alpe d'Huez mais qui était repartie bredouille, c'est Lucky par le réalisateur de Dick Enoch.
Oui, Anissa m'en parlait hors antenne. Alors je vous raconte l'histoire. D'un côté, vous avez Florence Foresti, flic corrompu jusqu'à l'os. De l'autre, Michael Youn et Alban Ivanov, deux potes un peu bas de plafond, complètement fauchés au passage, qui vont avoir une idée. Ils se disent, tiens, on va voler un chien policier spécialisé dans la recherche de drogue. Comme ça, on va aller trouver du cannabis et ensuite le revendre. C'est assez malin. Voilà, c'est un film avec des personnages sans foi ni loi, mais drôle, tout simplement. Écoutez Florence Foresti et Michael Youn.
Elle est sans foi ni loi. J'aime bien les gens qui s'embarrassent pas de la moralité.
Et elle a une sexualité très rigolote, puisqu'elle consomme des escort boys.
Ouais, elle consomme comme un homme, comme on a plutôt l'habitude de voir des hommes consommer des filles, voilà. Elle aussi, elle se tape des jumeaux de 25 ans, ça la fait marrer. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas le respect des lois.
Mais en vrai, je pense que c'est une super bonne idée de voler un chien des stupes.
C'est pas con, hein.
Voilà, alors franchement, on retrouve pas le niveau et l'absurdité qu'il y avait dans Dick Enoch. Mais c'est un film sympathique, je vous rappelle le titre Lucky. Et puis d'un mot, un bon film d'épouvante, cette fois porté par Elizabeth Moss, vous savez, la star de la série Handmaid's Tale. Elle est en couple avec un riche scientifique qui fait croire à son suicide et qui en fait a inventé une combinaison d'invisibilité. C'est un homme complètement fou, violent. Il va venir tirailler son ex-femme. tout en étant invisible, évidemment, c'est assez dur pour elle de trouver de l'aide, puisque quand Adim, il est là dans la pièce,
personne ne le voit.
Ça s'appelle Invisible Man, c'est efficace, c'est surprenant jusqu'à la dernière minute, et c'est ce que l'on attend de ce genre de film.
Merci beaucoup, Mathieu Charrier. Voilà.
On a envie de tout voir, ouais, encore, comme d'habitude.
Mais on va commencer par Jour de gloire d'Antoine de Barry avec Vincent Lacoste à l'affiche, évidemment, avec Lambert Wilson et Emmanuel Devos. Non, je me disais, Vincent Lacoste, ça a l'air d'être une chronique parisienne amusante, mais ça va au-delà de ça, c'est vraiment une chronique douce amère, ce film, non? On est vraiment dans quelque chose avec une plongée progressivement comme ça dans l'intimité du héros, vous en l'occurrence Adrien.
Exactement, c'est un passage
Mathieu
à l'âge adulte.
Mathieu Charrier qui avait le film.
Non, parce que c'est pas juste un personnage paumé, ça raconte aussi aujourd'hui la difficulté que peut avoir la jeunesse de trouver sa voie avec cette société qui vous met toute une pression parce qu'il faut réussir.
Exactement.
Ouais. Et c'est vrai que son personnage en plus qui a connu la gloire entre guillemets quand il avait 10 ans, qui était un acteur. Voilà, en haut de l'affiche, là, qui se retrouve complètement marginalisé, qui a des parents qui, eux, ont plutôt bien réussi. Oui. Et ça, c'est une situation à laquelle beaucoup de jeunes sont confrontés. C'est moi, ce que je trouve intéressant dans le film.
Il y a une connivence, allez-y.
C'est ça, et c'est l'idée de raconter un passage à l'âge adulte par une chute et que c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Le passage adulte, en tout cas, de raconter, comment dire, le mal qu'on peut avoir à se trouver, à comprendre qui on est.
La pression aussi, vous savez, sur la vie sexuelle.
Bien sûr, il y a une rencontre avec une collégienne de 15 ans, entre autres.
Il n'y a pas une rencontre avec une collégienne de 15 ans.
Il y a les anciens colocs et tout ça. Vous avez été vraiment... Il y a une connivence avec cet Adrien. Il y a une connivence qui était évidente. Vous étiez comme un poisson dans l'eau.
Oui. En tout cas, je me reconnais dans beaucoup de ces questionnements. Oui, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, il a des problèmes dans toutes les strates de sa vie. C'est-à-dire, il a des problèmes d'ordre sexuel. Il n'arrive pas à trouver l'amour. Il n'arrive pas à communiquer avec ses parents. Il n'a pas de travail. Il n'a pas d'argent. Forcément, c'est les craintes de tout le monde, de toute façon.
Vous nous avez dit que vous aviez le choix aujourd'hui dans ce qu'on vous proposait comme rôle et que d'ailleurs vous aviez rien là tout de suite maintenant, mais à plus long terme, vous avez déjà un projet en main dont on peut dire un mot ce soir.
J'ai deux films qui sortent. Un film de Xavier Giannoli, adapté des Illusions perdues. Un film de Elie Cisterne, qui est adapté d'un livre de Joseph Andras, qui s'appelle De nos frères blessés, qui est sur un anticolonialisme en la guerre d'Algérie. Et je vais faire un film de Catel qui les verrait aussi. Voilà.
Donc là, c'est des univers à chaque fois très différents.
Ouais, bien sûr. C'est ça qui est bien, de faire des choses différentes.
Merci beaucoup Vincent Lacoste. Vous serez au César ou pas vendredi? Vous serez dans la salle?
Non, je serai devant ma télé.
Vous n'êtes pas nommé cette année?
Non, je sais, mais vous auriez pu être dans le public, non? Il n'y a pas que les nommés qui y vont.
Oui, cette année j'y vais pas quoi.
D'accord. Merci beaucoup Vincent Lacoste en tout cas d'être venu chez nous à l'affiche demain de Mes Jours de Gloire d'Antoine de Barry avec Emmanuel Devos et Christophe Lambert. Merci beaucoup. Émilie Mazoyer, salut à vous.
Salut, comment ça va?
Ça va et vous? On vous retrouve en vrai là?
Oui, en vrai et avec un énorme bouquin ce soir dont on va parler, c'est 1960-1970, les photos des 60s de Jean-Marie Perrier.
Pas mal.
Ce qui est formidable avec Jean-Marie Perrier, c'est que contrairement à la plupart des artistes, lui, les années 60, il s'en souvient. Et il va pouvoir vous raconter absolument toutes les anecdotes. Oh, il y en a quelques-uns, je vous laisse chercher. Mais lui, il était là, il a tout vu, il a tout pris en photo. Il est même parti en voyage de noces avec Johnny Hallyday et Sylvie Vartan quand même. Enfin, c'est un truc incroyable. Et c'est un très beau livre qui vient de sortir. Donc Jean-Marie Perrier va venir parler des années 60 ce soir dans Musique. Puis comme ça, on écoutera les Beatles.
Très bien.
Donc
ce
soir, Musique, c'est jusqu'à 2h du matin. En fait.
Merci, Émilie Mazoyer. Voilà, on est calé avec vous, avec Jean-Marie Perrier. Très belle émission à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Vincent Lacoste. Demain, ici même, 18h-20h pour votre grand journal du soir et pour écouter ensemble Le Monde Changé. Très belle soirée à tous.
À demain. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.